Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin et bonjour pour ceux qui nous auront rejoint cet après-midi. On est un peu bousculé, donc on commence un petit peu en retard, mais on a le plaisir d'accueillir Étienne Davodeau, donc qu'on remercie tout particulièrement, d'une part parce qu'il vient d'Angers, donc ça fait quand même une bonne distance en train, Angers-Lyon, c'est pas tout à fait la porte à côté, et d'autre part parce que il est particulièrement occupé, ça lui a fait une grosse journée pour accepter de venir totalement librement discuter aujourd'hui avec nous, donc vraiment merci d'être venu.
Merci à vous.
Étienne Davodeau, c'était pour nous un auteur qui s'imposait quand on a pensé cette journée sur nature et bande dessinée. Ce matin, on a eu des interventions avec un regard plutôt universitaire sur la nature, la ruralité, les forêts, le monde rural dans la bande dessinée. Et qui était dans la préparation de la journée peut-être quelque chose qui nous a perturbé, c'est qu'on a vu que si les auteurs de bande dessinée représentaient la nature, le monde rural, c'est tout ce dont on va parler cet après-midi. Depuis longtemps, finalement, des travaux universitaires sur la question sont très peu nombreux et très récents. Il y a très très peu d'articles, de fonds sur cette question. Et vous entendez ou pas, parce qu'il y a un problème de micro. Alors, je ne sais pas. Aimerie. Et de la même façon... Et de la même façon...
Non,
ça marche pas. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Et de la même façon, des expositions de... qui croisent bande dessinée... nécessairement. qui croisent bande dessinée et écologie sont apparues depuis la première... on la date de 2012. Donc c'est des questions finalement...
Ah, ça marche. Tiens.
Voilà, merci. C'est des questions qui apparaissent bien plus tôt chez les dessinateurs que pour la réflexion qu'il y a derrière. Étienne Davodeau, il y a beaucoup d'articles qui ont été consacrés au travail d'Étienne Davodeau, mais beaucoup par l'axe bande dessinée de reportage. Enfin, c'est souvent sur ça. Et cet après-midi, nous, on avait un petit peu envie de le questionner autour de sa représentation de la nature, des paysages, de l'écologie, de l'environnement. Alors, plutôt que faire une présentation très formelle de tout son CV, on pensait plutôt vous l'amener progressivement, sachant qu'il y a des bandes dessinées qui sont disponibles. Les trois sur lesquelles on va axer la première partie de l'entretien, ce sont celles qui prennent vraiment la nature, le monde rural comme thème, comme enjeu. On va pouvoir en discuter. Rural, chronique d'une collision politique qui date de... 2001, il me semblait. Les mauvaises gens, qui là aussi met en scène à la fois la nature, mais surtout une relation homme-nature. Et la plus récente, Les ignorants, qui fait partie des gros succès. Vous allez dans n'importe quelle librairie, les ignorants sont toujours sur l'étal le plus visible. Donc à partir de ces trois bandes dessinées et de planches, on va essayer progressivement de vous amener vers cette traversée dans les espaces, dans les paysages naturels.
J'ajoute juste pour ceux qui voudraient un peu voir à quoi ça ressemble une BD d'Étienne Davodeau, il y en a d'une part sur la première table, on a mis en exposition celle qui était à notre disposition, et surtout tout au fond de la salle, on a un libraire, notre partenaire, qui du coup met à disposition en vente les BD si ça vous intéresse. Je dis ça comme ça.
Donc pour ceux qui n'ont pas amené leurs exemplaires, puisqu'on aura une petite séance de dédicace, mais pour ça, il faut déjà nous écouter avant.
C'était la surprise.
Donc, peut-être un point commun, par-delà les trois bandes dessinées que j'ai soulevées jusque-là, puisqu'il y en a... Étienne Davodeau, ça fait partie des auteurs de bandes dessinées qui sont particulièrement prolifiques. Vous allez voir que progressivement, on en a amené beaucoup de titres. Un point commun, c'est peut-être l'idée de rencontre, qui traverse cette bande la bande dessinée d'Étienne Davodeau. Alors, la rencontre avec la nature, la rencontre avec le rural, la rencontre avec le local et surtout la rencontre avec les gens nous a paru peut-être un premier axe à discuter.
Oui, tout à fait. Sur la représentation de la nature, on a donc une vraie relation qui se noue dans les BD de Davodeau entre Bah, Étienne Davodeau, qui joue souvent son propre rôle d'acteur, dessinateur et témoin de l'histoire, et des acteurs différents rencontrés dans un cadre rural, dans un milieu entre guillemets naturel, puisque c'est une définition et un adjectif qu'il faudra bien sûr réfléchir, sur lequel il faudra réfléchir et critiquer. Tout d'abord, une première question, du coup, on va en venir aux questions directement. Comment places-tu la nature dans ton œuvre particulière? Est-ce qu'il y a une place véritable ou est-ce que tu l'as pensée dès le départ comme quelque chose? Ça s'est imposé au fil de tes rencontres et des histoires qui te sont venues en tête ou...
Je prends le micro. Ah ben. bonjour à tous. Il marche le micro?
Oui,
d'accord, il marche. Ouais. Ben merci pour votre invitation d'abord. Je suis très heureux de venir vous voir à Lyon. C'est pas si loin en fait. Le TGV a vachement contracté l'espace national, donc ça se fait assez bien. Pour répondre à ta question plus précisément, en fait, les choses commencent de façon très prosaïque. Si la bande dessinée c'est d'abord un récit, c'est aussi du dessin évidemment. Et le plaisir du dessin est quelque chose d'incontournable. Enfin, si on ne s'amuse pas à dessiner, on ne fait pas de bande dessinée. Ou alors, c'est qu'on est masochiste. Et je ne le suis pas. Et j'aime dessiner les espaces naturels. J'aime dessiner la nature. Donc, naturellement, si j'ose dire, j'ai une propension, j'ai une pente qui m'amène à dessiner ça. Je suis toujours plus emmerdé quand je dois dessiner des espaces urbains. Ça m'arrive. Mais en général, de façon presque instinctive, j'installe mes histoires dans un décor, puisqu'en fait, voilà, quand j'écris une histoire, je dois l'installer, la poser quelque part. C'est un décor au sens presque théâtral du terme. J'ai une inclinaison naturelle à aller vers des espaces plus ouverts que des espaces fermés. Donc c'est souvent la campagne, c'est souvent le bord de mer, c'est souvent la vigne, pour les ignorants, par exemple. La vigne, c'est très très intéressant graphiquement, on pourra en reparler. Et donc la première raison qui me pousse à ça, c'est le plaisir du dessin. C'est-à-dire que voilà, dessiner des perspectives, la perspective m'ennuie terriblement pour tout vous dire, dessiner des rues, des immeubles, des rues pleines de bagnoles, graphiquement pour moi c'est un peu, non pas compliqué, mais c'est pas très rigolo, je m'amuse pas beaucoup. Dessiner des espaces naturels, des haies, des arbres, du ciel, c'est des choses qui sont plus plaisantes à dessiner. Donc c'est la première chose qui m'a amené à ça. La deuxième, c'est simplement que je ne peux pas faire l'économie de la question du point de vue. Je dessine de là où je suis, moi. Et il se trouve que je vis à la campagne. Il se trouve que les histoires que j'imagine, je les installe au plus près de l'endroit où je vis. Si je vivais à Brooklyn, sans doute que mes livres seraient très différents. Si je vivais dans le 6e arrondissement de Paris aussi. Il se trouve que moi, je vis dans l'ouest de la France, dans un petit village, et que je parle et je travaille de là où je suis. Voilà, donc c'est les deux principales raisons qui m'ont amené à dessiner la nature. Même si ce n'est pas une intention de départ, je ne me suis pas dit un jour je vais être le dessinateur de bande dessinée qui va dessiner la nature, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est quelque chose qui découle de ces deux points-là. Quoi.
D'accord. Et du coup tu as quand même eu des dessins qui parlent et qui retranscrivent autre chose que la nature. On peut penser à Un homme est mort où tu retranscris entièrement ou pas. Justement, on y reviendra. Brest. Juste, je rebondis sur ce que tu disais à propos de la vigne. Tu disais que c'est intéressant à dessiner, mais ça paraît très répétitif à faire, mine de rien, puisque ça semble osciller seulement avec les saisons. Il y a le taillage, il y a la taille, puis tout le processus que tu expliques, mais c'est très lent. Du coup, ça n'a pas été répétitif dans Les Ignorants de redessiner cette vigne ou je sais pas.
De toute façon, en bande dessinée, il y a forcément un facteur de répétition. On doit dessiner des centaines de fois les mêmes personnages, on doit dessiner des dizaines de fois les mêmes décors. Donc oui, la vigne, c'est quelque chose qu'on... Enfin, les images, les cases où j'ai dessiné la vigne, je ne sais pas combien il y en a dans Les Ignorants, mais des centaines et des centaines. Ceci dit, ce n'est pas tant un problème qu'une stimulation. C'est-à-dire que, voilà, il faut trouver des façons de la représenter de façon assez... pas fidèle, pas forcément précise, mais en tout cas suffisamment évocatrice pour que le lecteur sache où on est et quand on est, surtout. Ceci dit, la vigne l'hiver et la vigne l'été, c'est quasiment deux mondes presque diamétralement opposés. La vigne l'été, c'est quelque chose de très mouvant, de très lumineux, de très solaire, enfin évidemment l'été solaire c'est un peu con, c'est assez naturel, et l'hiver c'est vraiment quelque chose d'âpre, de rigoureux, d'austère, et rien que ça, rien que cette opposition-là m'a beaucoup plu à dessiner. Et puis il y a surtout le fait que la vigne, c'est, en termes de topographie, sont des rangs de vignes qui sont souvent plantées sur des courbes de niveau, ou en tout cas qui épousent la déclivité des terrains, et dans des endroits qui sont souvent des coteaux comme ça, c'est... La vigne, c'est déjà du dessin. Le gars qui plante une vigne, il ne le sait pas, mais il dessine. Il dessine des courbes de niveau, ou il dessine... En tout cas, il dessine les volumes de sa colline ou de son coteau. Et moi, dessinateur, quand j'arrive derrière lui, il a déjà fait le boulot un peu à ma place. Et les perspectives, les effets d'espace, de profondeur, tout ça, sont déjà là. Notamment l'hiver, où on a ces cèpes qui sont des espèces de choses un peu rabougries et noires et sombres, qui se détachent sur la caillasse du sol... mais qui ont toujours cette perspective avec les poteaux, avec les fils de fer qui sont tendus pour palisser la vigne. La vigne est de toute façon un endroit très graphique. Et les 200 et quelques pages des ignorants n'auront pas suffi à épuiser le plaisir que j'ai eu à dessiner la vigne.
Nous, on s'était aussi questionné pour préparer la journée d'études. En fait, il y avait un débat au sein du laboratoire junior entre appeler la journée d'études environnement et bande dessinée ou nature et bande dessinée. Et du coup, le choix du titre rural avec le point d'exclamation, puis il y a un sous-titre, nous questionne aussi sur tes propres représentations. C'est souvent un jargon très universitaire de distinguer la nature, l'environnement, l'écologie, le rural, etc. Est-ce que pour toi ça fait sens par rapport à ce que tu disais de là où tu es? Est-ce que rural c'est un choix qui s'est imposé par rapport à ce que tu dessinais? Comment tu perçois ce que tu dessines? Parce qu'on est là, on pose nous les termes nature, mais est-ce que pour toi tu dessines la nature?
Ou le rural, ou l'environnement.
Mais oui, c'est vrai que les termes sont très importants, même quand on est dessinateur, surtout quand on est dessinateur, peut-être même. La nature, au sens étymologique du terme, en France, elle est très très rare maintenant, à part quelques massifs montagneux. Si on entend par nature l'endroit où l'homme n'est pas intervenu, c'est-à-dire où l'espace végétal et minéral est resté à son état naturel, la vigne, c'est l'inverse de la nature. La vigne, c'est la civilisation. La vigne, c'est... mais c'est pas en termes d'opposition. C'est-à-dire que c'est une espèce d'accord millénaire, enfin, c'est comme ça que je le vois, entre, même pas l'espèce humaine, un individu humain, et puis un système végétal. La vigne, c'est vraiment ça. C'est pour ça que cette espèce de rigueur des plans de vigne en ligne, etc., me semblait assez évocateur. La vigne, c'est un espace... même si c'est un mot qui n'est pas très... C'est un espace agricole, c'est un espace paysan, parce que ça aussi, un agriculteur et un paysan, ce n'est pas la même chose. Et dans rural, c'était quelque chose d'important. Donc les termes sont très importants. Et dessiner la nature au sens strict, c'est dessiner, pour moi, en tout cas, tel que je le conçois, ce serait dessiner la nature vierge. Ce serait dessiner la forêt amazonienne ou je ne sais pas, il y a des endroits que j'aime beaucoup, comme l'Aubrac, par exemple. Ces endroits où la main de l'homme n'a pas encore fait grand-chose. La vigne, c'est exactement l'inverse de ça, je crois. Parce que la vigne, c'est la nature domestiquée. Alors, après, on peut faire des subdivisions. Selon la façon dont on mène la vigne, elle est particulièrement domestiquée ou pas. Selon que les sols sont absolument vierges de toute végétation, à part la vigne, dans l'hypothèse où ils sont assommés de produits chimiques, ou dans des cas où les vignerons optent pour des méthodes un peu plus douces, comme... la biodynamie, par exemple, dont je parle dans les ignorants, on voit que non seulement ce sont pas de... Visuellement, quand on passe en bagnole au milieu de la vigne, on voit quasiment la même chose. Si d'un côté de la route, on a un vigneron conventionnel et puis un vigneron, disons, en bio ou biodynamie, des deux côtés, c'est des cèpes de vigne et des raisins qui poussent. Pourtant, au fond, dans l'esprit de ces deux personnes qui sont de chaque côté de la route, c'est sans doute des gens qui travaillent de façon diamétralement opposée. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de voir ce qui peut pousser un vigneron à adopter l'une ou l'autre de ces techniques. Donc on est assez loin de la nature sans doute, et dans rural, cette question-là, elle est aussi centrale. C'est-à-dire que dans rural, je raconte l'histoire de trois jeunes agriculteurs à la fin des années 90 qui décident de passer en bio leur exploitation de vaches laitières. Dans les années 90, c'était moins fréquent que maintenant. C'était une époque où faire ça, c'était se mettre à dos l'ensemble de ses voisins agriculteurs d'emblée. Et ces trois jeunes agriculteurs trentenaires m'intéressaient pour ça. Ils m'intéressaient autant plus que le jour où ils ont pris cette décision, un peu novatrice, dans leur coin de l'Ouest français, c'est tout près de là où je vis, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais jamais loin chercher mes sujets. Le jour où ils ont pris cette décision, ils ont appris qu'une autoroute allait couper leur ferme en deux. Et, le même jour, vraiment le même jour. Et quand ils m'ont dit ça, évidemment, moi j'ai vu là d'emblée le sujet d'un livre. Et là, c'est l'aménagement du territoire. Est-ce que c'est encore la nature? Parce que voilà, c'est une exploitation où on laisse des vaches qui se baladent dans les prés, oui, un peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez violent en termes d'impact.
Nécessairement, oui. Et du coup, à la façon dont tu parlais de la vigne, ça me fait penser à...
Ouais. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Ouais,
vous m'entendez bien, là?
Oui.
Du coup, la façon dont tu parlais de la vigne, ça me fait penser à... une de tes BD, plutôt une nouvelle que tu as fait en BD dans France, un recueil de France Info, où tu parles du vent, tu parles de la tempête de 99, donc je vais juste très vite, on y reviendra plus tard. C'est juste que la façon dont tu en parles, ça témoigne d'une fascination pour la nature, une fascination, tu parlais de la vigne comme une sorte de poème dessiné sur le territoire. Là, le vent, c'est quasiment ce qu'on disait avec Bénédicte, un poème au vent. D'où vient, à ton avis, cette fascination que tu as justement pour la terre, pour la vigne, pour qu'est-ce qui te frappe en fait là-dedans, en fait, qui te pousse à vouloir le dessiner, à le retranscrire, à en faire finalement une œuvre?
J'en sais absolument rien. Je suis foutu comme ça, tout simplement. Ça va sur le micro? Pour vous, au fond, ouais. Bon, tant mieux, alors on va l'éteindre. En fait, ce qui m'intéresse, probablement qu'au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'énergie qui parcourt tout ça. Alors le vent, en l'occurrence, pour faire court, le récit dont vous voyez la première planche ici, c'est un récit de quelques pages qui m'avait été demandé à l'occasion des 20 ans de France Info. Mon éditeur avait publié un livre où différents événements notables des 20 dernières années avaient été confiés à des auteurs de bande dessinée pour qu'ils en fassent un récit court de 5 ou 6 pages, je ne sais plus. Et donc moi, j'avais choisi la tempête de 99, d'une part parce que j'y avais laissé une partie de mon toit, et que voilà, ça me faisait quand même des souvenirs, et que c'était pour moi, effectivement, comme tu dis, l'occasion de parler de cette chose que jusqu'à ce jour-là, j'aimais plutôt bien, c'est-à-dire le vent. Le côté tonique et rafraîchissant et tout ça, bon, c'est des choses assez banales du vent, jusqu'à ce jour où, effectivement... le vent m'a joué un sale tour, et ce qui fait que dans les semaines qui suivaient, à chaque fois qu'un coup de vent s'annonçait, je tendais un peu le... Voilà, je me disais, merde, ça va recommencer. Je vais y laisser encore un peu des plumes. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté absolument incontrôlable de la chose, cette énergie qu'on a vue à d'autres moments. Alors évidemment, c'est dramatique sur le moment. On peut penser à un tsunami, on peut penser à toutes ces choses. La façon dont ça remet l'être humain à sa place dans ce monde où on a construit un monde hyper technologique où la moindre défaillance entraîne des catastrophes invraisemblables. On coupe le courant, on est tous dans la merde, les satellites tombent en panne, on ne peut plus se parler. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes et ce genre d'événement nous ramène à ça tout de suite. C'est-à-dire que voilà, un bon gros coup de vent et on ne peut plus joindre qui on veut alors qu'on en a l'habitude, on ne peut plus se chauffer, on ne peut plus rafraîchir son frigo, chauffer ses aliments. Enfin, on se retrouve à l'état primal de notre condition humaine. Et évidemment, c'est quelque chose, pour quelqu'un dont la fonction est de raconter des histoires, c'est quelque chose de très nourrissant, si j'ose dire. Voilà.
Je vais continuer sur cette courte bande dessinée. D'ailleurs, c'est le jour où qui est le recueil collectif et disponible, si on peut le faire passer. Moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est quelques pages parce qu'il y a un décalage entre ce que tu es en train de dire. Donc cet amour, c'est un poème au vent, quoi. C'est vraiment là, un élément de la nature où tu racontes pourquoi ça te plaît. Et finalement, on se retrouve un peu tous dans ça. Et... tout en étant dans ces paroles presque amoureuses, on voit progressivement la tempête arriver et il y a un décalage en fait entre ton dessin.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et ce type-là de bande dessinée, tu ne te mets pas trop en scène finalement, on te voit toujours en retrait. Alors que dans tes reportages, enfin BD de reportage, on te voit agir. Est-ce que tu vois là la nature plutôt comme un un espace décor de ce qui s'est passé, qui serait plus l'événement traumatisant, la catastrophe. Enfin, la catastrophe, tu dis que tu as perdu ton toit, c'est, ça serait relatif, mais en tout cas, il y a un peu un traumatisme. Et puis, ou carrément, pas du tout comme un espace décor, carrément comme l'enjeu même de ta bande dessinée. Parce que le décalage, on ne sait plus finalement où tu te situes. Enfin, sur celle-ci, il y a les deux.
Ouais, je dois d'abord dire que ça me fait assez plaisir que vous parliez de cette histoire-là, qui est dans tout ce que j'ai fait, une de mes préférées, dont on ne parle jamais. Donc, merci d'y revenir. Maintenant, voilà, tout à l'heure, je parlais de décor au sens théâtral ou poser une histoire. Ça, c'est vrai pour certains de mes livres, mais en même temps, la plupart du temps, c'est un décor qui joue un peu plus le rôle, un peu plus que le simple rôle d'un décor. Dans Rural, le décor est quasiment le sujet, c'est-à-dire que l'aménagement de ce lieu où ces trois agriculteurs essaient de changer leur pratique agricole alors qu'une autoroute passe, dans Les Ignorants, où la vigne est quasiment le personnage principal du livre. Le décor dépasse son rôle simple de décor qui serait simplement un contexte dans lequel une histoire se déroule. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de l'écrire. Mais en même temps, je prépare pas ça plus que ça. Je veux dire que quand le sujet vient à moi, je me lance dans le récit avec ça en tête, mais je laisse les choses venir naturellement. Je fais très attention en même temps à ce que tout soit assez documenté. Dans la plupart de mes livres, je dessine des lieux qui existent. J'invente très peu les lieux parce que j'aime bien cette idée de poser quelque part un récit et que le lieu dans lequel je pose le récit soit un des facteurs narratifs du livre. Donc je fais beaucoup de repérages. Le repérage n'est pas propre aux cinéastes. Les auteurs de bandes dessinées en font aussi souvent. Ça permet aussi d'éviter les clichés. Et les clichés sur le monde rural, sur les villages et tout ça, ils sont très nombreux. On voit beaucoup de films ou de téléfilms qui se passent à la campagne où on a le cliché de la magnifique maison avec les tomates qu'il faut, avec les bouquets qu'il faut, les paniers accrochés au plafond qu'il faut et la pelouse impeccable. Enfin voilà, on est dans le mode des travaux, on est dans un magazine de table basse, mais on n'est pas à la campagne. À la campagne, il y a des grosses bâches en plastique sur les tas de fumier, il y a des gros pneus qui servent à caler les bâches. Il y a des choses qui sont visuellement pas montrables si on veut faire consensus. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien aller chercher ça. Parce que simplement c'est des choses qui sont là et qui sont pas forcément montrées en tant qu'élément du lieu qu'elles sont censées décrire. La campagne, dans le sens le plus commun du terme, c'est les petits oiseaux, les arbres qui fleurissent, et c'est l'été. Déjà l'hiver c'est un peu compliqué, la campagne c'est un peu austère. Déjà on prend un parti pris esthétique en montrant la campagne l'hiver, donc en gros la campagne existe dans un spectre très, je parle au sens dominant des images qui nous sont proposées au cinéma, à la télévision et probablement aussi en bande dessinée. C'est une campagne, disons, très rousseauiste, pour dire les choses un peu rapidement. Sauf si, évidemment, on fait un film dramatique où c'est la mer qui se déchaîne, où c'est la montagne qui nous agresse. Mais en général, quand elle sert uniquement de décor, c'est enfin, je sais pas, j'ai vu la bande-annonce du dernier Lelouch qui se passe à la montagne dans des magnifiques chalets avec des lumières rasantes. Tout est filmé, à mon avis, à 7h du matin ou à 8h le soir, avec des ombres très longues, des lumières très dorées. Donc c'est une campagne publicitaire, en quelque sorte. Et c'est contre ça que je dessine, pour dire les choses simplement.
C'est super riche, mais tu disais que tu, à propos de cette campagne que tu veux montrer telle quelle, du coup, pour la montrer telle quelle, tu vas souvent proche. Tu vas souvent à des lieux proches de chez toi. Tu vas dans Les Ignorants tu dis on est dans les coteaux du Layon.
Layon.
Ouais. Je ne sais pas comment on le disait. On est dans les coteaux du Layon. Le Gaec qui est dans Rural, c'est pas loin de chez toi non plus. Mmh. Et est-ce que tu as une fascination déjà pour ta région? Est-ce que c'est seulement par utilité pratique? Est-ce que c'est plutôt par fascination pour ta région parce que tu l'aimes foncièrement? Et du coup, est-ce que tu es régionaliste, en quelque sorte, si on pousse le bouchon un peu loin?
Non, je me fous absolument de ma région. Quand je dis ça là-bas, ça, les gens, ça leur fait pas plaisir, mais c'est vrai, hein, ça m'est complètement égal. Simplement, je pars d'un principe de réalité. Je vis là-bas, donc j'aime bien l'idée de raconter des histoires qui se passent à portée de mon crayon. En reprenant un peu de recul, même, je me dis qu'autour de nous, il y a plein d'histoires à raconter qu'on voit pas parce qu'elles sont trop près. Et c'est là-dessus que je travaille, moi. Et plus je trouve une histoire près de moi, plus je me sens légitime à la raconter. Et Richard Leroy, ce vigneron dont je parle dans Les Ignorants, ou les gens que vous voyez à l'écran, Philippe et Catherine Sorezi, ce sont des gens qui étaient des gens que je connaissais avant de faire le livre. C'est des gens dont l'histoire met... Alors, Philippe et Catherine, là, et la maison que vous voyez là, c'est des gens qui ont subi l'autoroute dont je vous parlais tout à l'heure. La maison n'existe plus, elle a été rasée. Donc je raconte les 15 ans de travail pour remettre sur pied cette magnifique ferme, et puis les 2 jours pour la mettre par terre, en gros, quand les bulles arrivent et qu'il faut faire passer l'autoroute. Il raconte le traumatisme pour une famille, un traumatisme réel, c'est pas un traumatisme fictif. Mais ce sont des gens que je connais, ce sont des gens que... C'est pas des gens chez qui j'arrive en disant « Bonjour, j'ai entendu parler de votre histoire, je voudrais en faire un livre ». Ce sont des gens que je connais avant d'avoir l'idée du livre. Et j'ai l'impression que ça légitime davantage ma position de narrateur que si j'arrivais comme ça de façon un peu surplombante, si je venais ramasser leur histoire, si je m'en allais, si on se voyait plus. Ce sont des gens que je vois toujours. Ce sont des gens avec qui j'ai une relation suivie. Mais en même temps, donc, fatalement, ce sont des gens... Voilà, tout ça vient du fait que je ramasse mes histoires en quelque sorte près de l'endroit où je vis. Alors moi, voilà, il se trouve que je vis en Maine-et-Loire, dans un petit village de 700 habitants, et que je ramasse mes histoires là-bas. Mais je ne suis pas du tout un auteur régionaliste. C'est le Maine-et-Loire parce que j'y vis. Si je vivais à Lyon, ce serait Lyon. Enfin, Et surtout, je ne fais pas mes récits pour les gens de là-bas. Je fais mes récits pour un lecteur qui peut être à New York ou en Indonésie, je m'en fous. Mais en tout cas, je n'ai pas du tout une démarche localisante. J'espère pas, en tout cas. Même si, inévitablement, on me présente parfois comme ça.
Mais du coup, tu disais justement que tu faisais tes récits pas pour les gens du local, du coin, mais pour tous. Et ce qui nous a frappé, moi, en tout cas, en tant qu'apprenti géographe, ce qui me frappe, c'est la présence de la carte dans tes bandes dessinées, où justement, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Anjou, les côtés du rayon, d'ailleurs, on ne sait même pas bien le prononcer, comme l'a montré...
On dit un rayon de soleil, tu remplaces le R par un L, et ça fait Léon. Ah, c'est pas un rayon.
La petite boutade. et du coup, il y a une présence assez importante de la carte.
Ouais.
Dans Rural, la carte, tu l'as...
Je peux la retrouver, mais là, simplement, il y a le personnage qui dit « Pour comprendre ça, il faut une carte ».
Pour comprendre ça, il faut une carte. Et ça revient assez souvent aussi. Dans Rural, on t'explique... c'est toi qui reçois par la carte l'explication de ce qui va se passer, de ce projet d'autoroute qui va couper la ferme en deux. Et puis, il y a vraiment cette présence. Est-ce que tu es dans une démarche tu disais pour tout le monde, est-ce que tu es dans une démarche pédagogique pour expliquer, ou est-ce que la carte, elle s'impose parce que c'est aussi une manière de représenter l'espace? Pourquoi cette présence?
Il y a deux raisons. D'abord, il y a une dimension effectivement quasiment didactique. En l'occurrence, en Rural, je raconte une histoire qui se passe sur un territoire. Je dois donner les accès... l'accès de tous ces enjeux au lecteur, donc la carte est un bon recours, même si c'est souvent des cartes très simplifiées, comme celle-ci. Il se trouve que par ailleurs, moi, les cartes, notamment les cartes IGN, tous ces cartes-là, j'adore ça. C'est graphiquement très, très beau. Et j'envisage, mais ça fait longtemps que je traîne ça, et un jour je le ferai, j'envisage de faire un livre avec des vraies cartes, avec des vrais fonds de cartes, parce que je trouve que c'est à la fois très narratif, ça raconte beaucoup, et puis c'est esthétiquement souvent assez bon. Moi, une carte top 25, j'adore, j'en ai plein, je les regarde. Les atlas, j'adore ça. Google Earth, je trouve ça fascinant. Donc c'est des choses qui sont... Ce sont des images qui racontent beaucoup de choses sur les lieux qu'elles décrivent. Donc je m'en prive pas dans mes livres. Et puis en plus, quand on fait de la bande dessinée documentaire ou de reportage, on est toujours soumis à une espèce de suspicion. La bande dessinée... Pour les gens qui la connaissent mal, c'est l'humour, c'est la déconnade, c'est tout ça. Donc quand on arrive en prétendant faire un récit un peu documenté, un peu établi, il y a toujours une espèce de petite méfiance, et on se dit, ouais, ok, ils nous racontent ça, mais c'est de la BD, donc on va peut-être se méfier. Je trouve très bien qu'on se méfie quand on nous raconte une histoire. Mais en tout cas, introduire des cartes, introduire des articles, introduire des choses comme ça dans mes pages, ça permet d'authentifier en quelque sorte ce que je raconte. Donc... une carte des Mauges, une carte du chantier de l'autoroute, un article qui résume une manifestation que je viens de dessiner, par exemple, une manifestation d'ouvriers. Ce sont des choses qui, en quelque sorte, ancrent mon récit dans une espèce de contexte historique un peu indubitable. Mais la première dimension, effectivement, elle est visuelle, pour moi.
Et derrière... pour continuer sur Rural, donc il y a cette représentation de l'espace tel que tu l'as rencontré par la carte, et on voulait savoir comment tu concevais ce qu'allait être ta bande dessinée, parce que finalement tu donnes un témoignage de quelque chose qui a disparu en dessinant cette ferme qui va être détruite parce qu'il y a l'autoroute, également avec le rôle des archéologues qui sont là pour essayer de trouver tout ce qu'ils peuvent avant qu'il y ait l'autoroute pour après être dans les musées et pouvoir retranscrire l'histoire. Est-ce que tu penses que finalement bande dessinée de reportage, ça représente bien ta bande dessinée? Ce serait pas plutôt bande dessinée de mémoire ou je sais pas, un autre genre? Est-ce que pour toi tu fais œuvre de mémoire par ta bande dessinée?
De façon incidente, ça peut arriver, même si c'est pas forcément mon projet initial, mais j'ai rien contre cette idée-là, évidemment. Alors, on revient à cette question de terminologie. Paysan ou agriculteur, viticulteur ou vigneron, des bandes dessinées de reportages, documentaires, c'est très secondaire pour moi. Moi, je fais les livres tels que j'ai envie de les faire. C'est pas mon job de les qualifier. Ce serait ceux des historiens de la bande dessinée ou des critiques de la bande dessinée. Alors, bande dessinée de mémoire, pourquoi pas, oui. En l'occurrence... certains de mes livres sont vraiment là-dessus. Les mauvais gens parlent du milieu dans lequel j'ai grandi, un milieu ouvrier, syndicaliste, catholique. Un homme est mort raconte une lutte à Brest en 1950, dont évidemment tous les éléments ou presque ont disparu. Donc il y a effectivement cette dimension mémorielle, mais pas seulement. Enfin, j'espère que c'est pas juste ça, que ça relève pas juste de la nostalgie. Un récit qui se passe en 1950 ou des luttes sociales que je raconte des années 70. À mon avis, elles ne prennent sens que si elles sont lues à l'aune de ce qui se passe maintenant. Voilà, notre Premier ministre vient de faire des déclarations très intéressantes à ce sujet. Enfin, je veux dire, voilà, on peut... Même hier, enfin, c'est des choses qui font écho, forcément. Toutes ces choses-là doivent être mises en réseau, en quelque sorte. Et je fais pas ça... Enfin, je fais... La nostalgie m'emmerde. C'est pas du tout dans cette optique-là que j'écris ces livres-là. Mais je me dis parfois qu'il y a certains récits dont on pense qu'ils vont être oubliés, qu'il est utile de remettre à la lumière. Et moi, j'ai ce petit pouvoir-là. J'ai le pouvoir de m'adresser à quelques dizaines de milliers de personnes avec mes livres de bande dessinée. Et quand j'ai ce pouvoir-là, la question inévitable, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Alors, je peux aussi l'utiliser sous cette forme-là. Et en l'occurrence, quand j'ai dessiné Rural, mon pouvoir, c'était de donner la parole aux opposants à cette autoroute, qui ne l'avaient pas, qui n'étaient pas entendus, qui ont perdu ce combat. C'est-à-dire que cette autoroute, aujourd'hui, elle existe. Hein. Mais en tout cas, laisser la trace de leur combat et de ce pourquoi ils ont combattu me semblait faire sens. Voilà.
Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas Un homme est mort, on va peut-être en profiter pour replacer progressivement. C'est une bande dessinée que tu as fait avec Chris, qu'on a invité au mois de novembre sur notre journée d'études, violence et bande dessinée. Parce que Chris est également, pareil, il a fait beaucoup de choses, mais scénariste de Notre Mère la Guerre, peut-être plus connu pour...
Pour un sac de billes aussi, qui est nominé au Eisner Award.
Voilà, oui, depuis 2 jours. Et en effet, tout à l'heure, tu disais que tu étais plus emmerdé par j'ai noté, plus emmerdé par les espaces urbains à dessiner, et là, tu es à Brest. Et Chris nous racontait que ton dessin de Brest était dérangeant quelque part parce que il savait que c'était pas les éléments topographiques bien situés dans Brest et pourtant ça fait Brest. Donc c'est Chris qui est brestois et qui.
Ah oui.
J'ajoute juste un truc. Tu viens de dire il y a pas longtemps, j'invente très peu les lieux. Tu
sais que mine de rien. Je peux rien dire. Tu t'es noté.
Ouais, t'as dit j'invente très peu les lieux. Or à Brest, t'as représenté une impression de ville, quoi. Une impression de ville. En tout cas, les gens, ce que nous disait Chris, il disait, je crois que les gens s'étaient reconnus dans Brest extraordinairement, alors que. T'as dessiné ça sans forcément... Quoi. Est-ce que t'as dessiné, du coup, avec beaucoup de documentation ? Chris n'avait pas l'air de nous dire ça, mais bon, j'ai pas envie de...
Le Brestois disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait bien placées, mais ça faisait Brest.
On n'est pas des balances. Hein.
c'est sur Internet, de toute manière.
Ouais, non, mais... pour les gens qui ne connaissent pas Un homme est mort raconte une histoire, l'histoire d'un mouvement social en 1950 à Brest. C'est un mouvement social qui était dû aux ouvriers qui reconstruisaient la ville. Brest a été rasée en 1945 par les bombes américaines et anglaises. qui essayait de déloger les dernières troupes allemandes. Et donc, dès la fin de la guerre, et pendant 10 ou 15 ou 20 ans, Brest a été un immense chantier, puisqu'il fallait remettre la ville debout. Il restait, je crois, 13 immeubles debout. Bref. Et en 1950, les ouvriers se mettent en grève pour obtenir simplement des meilleures conditions de travail, des bons pour nourrir leur famille, parce que c'était encore le rationnement. Et lors d'une de ces manifestations, les gardes mobiles tirent dans la foule. Et un homme est mort, d'où le titre. Et puis, pas mal de gens sont blessés. Et on demande à un jeune cinéaste de venir filmer tout ça. Et ce jeune cinéaste, c'est René Vautier, qui est toujours vivant maintenant, qui tourne toujours maintenant, qui a tourné à avoir 20 ans dans les Aurès, qui est son film le plus connu. Bref, René Vautier tourne un film à l'arrache, comme ça, avec une petite caméra, sans son. Il arrive trop tard pour filmer le mouvement social en question, mais il filme l'enterrement de ce type, Édouard Mazet, qui a pris une balle en pleine tête, qui était à la tête de la manifestation. Et ce film, qu'il monte un peu comme ça en bricolant, fait une dizaine de minutes, et il le diffuse ensuite sur tous les piquets de grève. Et il le diffuse ensuite dans les villages autour de Brest, et les gens, pour voir ce film, donnaient de la nourriture qui allait ensuite aux grévistes. Et ce film a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une copie, enfin il n'y avait même pas de copie, il y avait juste la pellicule du film original, qui à force d'être projetée sous la flotte, dans les gravats, dans la poussière, s'est détruit. Donc c'est un film qui a joué un rôle étonnant, parce que de témoin d'un mouvement social, il en est devenu acteur. C'est la projection de ce film toutes les nuits qui entretenait la flamme en quelque sorte. Et ce film a disparu. Et nous, en bande dessinée, avec Chris, donc, on a reconstitué, non pas ce film, parce qu'on ne l'a pas vu, il a réellement disparu. On a retrouvé quelques dizaines de secondes du film après qu'on ait publié notre livre, mais enfin voilà. Mais on a raconté l'épopée de ce jeune cinéaste qui court dans les rues de Brest en construction et qui filme et qui montre son film, etc. Voilà. Moi, dessinateur de ce projet, je devais donc dessiner la ville de Brest, non pas telle qu'elle existe maintenant, non pas non plus telle qu'elle existait avant la fin de la guerre, mais dans un espèce d'entre-deux, qui est une ville à la fois en ruine et en chantier, où d'une semaine à l'autre, il y a une rue où on abat des gravats, et la semaine d'après, on commence à monter des nouveaux bâtiments. Et pour faire ça, en 1950, j'étais pas né, je tiens à vous le préciser. Et pour faire ça, voilà, moi, j'avais pas beaucoup de documentation. Donc, Chris m'a donné beaucoup d'images, de bouts de films. Enfin, lui, il est brestois depuis le paléolithique, à peu près. Donc, il a tout ça dans le sang, en quelque sorte. Donc, je me suis nourri de tout ça, de toutes ces images. Je les ai rangées. Et puis, j'ai dessiné mon livre pour dessiner les rues de Brest, voilà, des échafaudages, des sacs de ciment, des tas de gravier, des immeubles debout, plus ou moins, etc. C'est pas Brest du tout. C'est juste une suggestion d'une ville en chantier dans les années 50. Et quand le livre est sorti, il a été formidablement accueilli à Brest. C'était vraiment chouette à vivre. Et j'ai vu des vieux pépés de 80 ans venir me serrer la louche, la larme à l'œil, en me disant « C'est formidable, vous avez dessiné Brest exactement comme c'était. » Et je leur disais pas « Ben non, j'ai juste dessiné des chantiers, j'ai juste dessiné quelque chose qui convoque votre mémoire. » Et c'est pour ça que vous trouvez ça juste. C'est pas ce que j'ai dessiné que vous trouvez juste, c'est simplement ce que vous avez en tête qui arrive à être convoqué par ce que j'ai dessiné. Mais je crois que c'est comme ça. C'était la seule solution que j'avais, en quelque sorte, puisque je ne pouvais pas dessiner Brest en 1950. Cette ville-là n'existe plus. J'étais pas né. Et donc le dessin, à mon avis, doit servir à ça, doit servir à suggérer, doit servir à aider les gens, ceux qui l'ont vu, à se souvenir de ce que c'était, et puis ceux qui ne l'ont pas vu, qui étaient la majorité, à imaginer ce que peut être une ville en chantier à cette époque-là. Donc je n'ai pas cherché à faire preuve d'exactitude, mais plutôt à faire preuve de... à faire en sorte que les gens puissent l'imaginer, quoi, tout simplement.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été aussi bien... Quand on lit, quelle que soit l'époque, quel que soit le moment et quel que soit le lieu d'où on vient, on s'identifie automatiquement à cette ville qui est un peu une ville parmi d'autres, sans forcément que ce soit Brest. Ouais. Tu l'as un peu sorti du singulier, quoi. Je sais pas
c'est si ça. Oui, ouais, on peut dire ça. Alors, évidemment, il y a des lieux, la Penfeld, la rivière, il y avait deux, trois bâtiments qui étaient restés qu'il fallait dessiner. Mais sur l'ensemble du livre, ce sont trois ou quatre points d'ancrage qui servent simplement à fixer les choses, quoi.
Et du coup, juste pour revenir sur cette mémoire des lieux et cette non-mémoire des lieux, cette recréation dont tu parlais, tu mets en avant dans Rural, un archéologue. Et ta rencontre avec l'archéologue, je la trouve très intéressante parce que elle est double, c'est-à-dire que l'archéologue, c'est à la fois un maillon du système de l'autoroute qui est en train de se faire, et donc c'est quelqu'un qui va participer à la destruction de tout ce que finalement tu mets en dessin et tu défends. Mm-hmm. Et en même temps, c'est quelqu'un, on l'approche avec une sorte de candeur et de naïveté, où on découvre aussi avec une sorte de curiosité son métier, parce que c'est certes un acteur du grand maillon des méchants, mm-hmm. voilà.
Mais, oui, c'est...
voilà, quoi, des... des anonymes salopards dont tu parles à la fin et que tu veux même pas leur donner une case pour voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un qui stratifie les lieux, qui donne une vision du lieu, un peu comme ce que tu fais, mine de rien. Parce que toi aussi, moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que tu dessines le paysage et l'archéologue, en quelque sorte, il essaye de retranscrire aussi le paysage. C'est deux choses qui étaient assez... qui était assez similaire, et du coup ma question enfin, parce que ça commence à traîner, est-ce que tu envisages aussi la BD comme un moyen de lire le paysage, de lire la nature et de la comprendre d'une manière peut-être différente d'une photographie ou d'une manière complémentaire peut-être de comprendre le paysage ou pas du tout?
Si, sans doute que ça contribue à ça, effectivement. La naïveté dont tu parles, c'est la mienne. Hein. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, je me promène sur le chantier, je vois des gars en train de fouiller dans des carrés de terre dénudés, et je vais les voir, et je leur dis « Salut, qu'est-ce que vous faites ?» Et puis voilà, il se trouve que c'est un archéologue, et qui me raconte tout ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train d'exhumer des choses avant le passage des bulldozers, et qu'il a trouvé les restes d'un village gaulois, et que... Moi, je trouve ça fascinant, et lui, il trouve que c'est la routine, parce qu'en France, dès qu'on creuse un peu, on trouve un village gaulois, en gros. Enfin, pour lui, c'était pas forcément spectaculaire, quoi. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir la façon dont ces choses-là sont prélevées. En plus, ils ne travaillent pas très confortablement, ils ont très peu de temps, ils aimeraient avoir plus de temps. À l'occasion de ce chantier, ils ont trouvé un... Comment ils appellent ça ? C'est plus une villa romaine, sur le bord de l'autoroute, mais simplement, ils n'ont pas les crédits. Donc, sous un champ de maïs, on sait qu'elle est là depuis l'autoroute, donc depuis 15 ans. Mais ils n'ont pas les moyens d'aller la voir, parce qu'il faudrait des crédits, il faudrait du temps, des moyens, des gens, etc. Donc, tout ça, ça fait partie de l'histoire, en quelque sorte. Et c'est aussi une façon, en creux, de raconter ce contexte, sinon naturel, en tout cas topographique. C'est vraiment à l'échelle topographique que ce lieu-là s'articule dans mon livre, en tout cas, puisque c'est... C'est un ruban de 80 km de long entre Angers et La Roche-sur-Yon, où c'est la campagne, c'est la vigne, c'est des maisons, c'est tout ça. Et boum, il y a le couloir qui passe, et qui rase la maison de Philippe et Catherine, qui coupe en deux la ferme de mes copains du Gaec du Causon, qui donne du boulot à cet archéologue. En plus, cerise sur le gâteau, ce gars me dit « Ah bon, tu fais de la bande dessinée ?» C'est marrant, moi aussi, je voulais faire de la bande dessinée jadis, mais les éditeurs n'ont pas voulu de moi. Donc, mon livre se nourrit de tout ça, c'est un hasard. Je ne pouvais pas savoir que je tomberais sur un ex-futur collègue, mais... Ça, c'est des choses que je prends très volontiers, évidemment. Mais tout ça raconte l'histoire d'une portion du territoire, en quelque sorte. Et tout ça, ça se dessine. C'est-à-dire que cette image-là, là, les pieux, les tranchées qu'ils ont faites, maintenant, voilà, on passe dessus à 130 à l'heure. Et c'est sans doute les seules traces qui en restent, visuelles en tout cas. Évidemment, tout ce qui devait être prélevé l'a été. Mais voilà, tout ça, c'est du passé.
C'est ce que tu dis aussi à la fin. Après, je laisse la parole à Béni, je crois. Mais ce que tu dis à la fin, je crois, dans... Si tu as l'occasion à 130 à l'heure de voir quand tu passes à la hauteur du puits et des piliers, dis-toi que tu traverses à 130 km la salle de bain de Catherine et de Philippe. C'est cette impression de vitesse. Et en même temps...
Alors ce puits et ces deux piliers existent toujours au bord de la 87. Mais il y a des arbres qui commencent un peu à les cacher. Mais en tout cas, on m'en parle très souvent. Les gens qui ont le rural et qui voient ça au bord de la route, ça fait un petit moyen mnémotechnique de se souvenir que voilà, on passe chez les gens en gros.
C'est rural et certaines planches de rural ont été utilisées dans des publications de type pédagogique pour les programmes en histoire-géographie. Je pense notamment à une documentation photographique qui utilise rural pour illustrer la question qui est au programme, à l'agrégation et au CAPES, enfin, au concours de l'enseignement, sur un conflit d'aménagement. Les conflits d'aménagement sont très présents également dans les programmes scolaires, et l'autoroute, c'est presque une étude de cas. Et du coup, comment tu vois justement cette trop grande réappropriation ou cette appropriation, ou est-ce que c'était toi ce que tu voulais dessiner, du lien entre conflit et aménagement? En tout cas, est-ce que tu voulais dessiner un conflit au départ? Est-ce que tu l'as vécu comme un conflit? Ou est-ce que c'est nous qui surinterprétons derrière avec les outils intellectuel, est-ce que toi tu voyais le dessin de ce qui était en train de se passer, ou ouais, il y avait déjà une idée derrière
pour Rural
positionner, ouais.
Bon, Rural, je l'ai sous-titré Chronique d'une collision politique. Donc là, en tant que scénariste, en tant que narrateur, le conflit, c'est formidable. Comme mon copain Étienne Sébron est venu me dire que l'autoroute coupait leur ferme en deux, évidemment, il était complètement abattu. J'ai essayé de cacher mon enthousiasme. C'est-à-dire que dès qu'il m'a dit ça, moi, j'ai vu un livre. J'ai vu trois agriculteurs qui essaient de changer de pratique. Et puis, boum, l'autoroute qui vient les percuter. Mais lui, il était complètement abattu, évidemment, puisque cette autoroute, elle a mis à mal leur projet de changer leur méthode de travail d'agriculteur, de paysan, pardon. Mais évidemment que le conflit, la tension, l'opposition, ce sont des choses très racontables. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est ma matière première, ce sont des choses à raconter. Donc évidemment que, quitte à être parfois... assez binaire, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on se retrouve vraiment avec en opposition sur un lieu. Alors, on revient à la topographie. C'est vraiment, il y a vraiment une scène là qui fait quelques dizaines de kilomètres carrés où on a encore une fois dans les années 90. Hein, c'est moins vrai maintenant. Enfin, ça serait plus simple maintenant sans doute, mais dans les années 90, trois mecs qui ont 30 ans, qui sont paysans à la Confédération paysanne. Alors déjà, en Maine-et-Loire, être à la Confédération paysanne, c'est un peu compliqué. Et puis, qui décident de passer en bio leur exploitation laitière, où ils ont une cinquantaine de vaches, donc ça fait ricaner tous les gens autour. Et puis, en plus, ils se prennent cette autoroute. Donc, il y a là tous les ingrédients, pour moi, d'un récit. En termes de dramaturgie, il y a énormément de choses. Il y a les opposants qui sont là. Il y a ASF, Autoroute du Sud de la France, qui domine tout ça avec ses moyens de communication gigantesques. Il y a des élus qui ne sont pas toujours très à l'aise quand on leur pose la question de pourquoi l'autoroute passe là alors que ça fait 50 ans qu'il est prévu qu'elle passe là-bas. Donc tout ça, ce sont des personnages d'un livre à venir, pour moi, et c'est un récit à raconter. Après, une fois qu'on a ça en tête et qu'on a ça dans les mains, en quelque sorte, on se retrouve avec des questions très concrètes et très techniques qui sont les questions que se pose tout scénariste. Comment raconter l'histoire que je vais raconter ? La seule contrainte supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas changer une scène parce qu'elle ne nous arrange pas. On raconte les choses telles qu'on les découvre. Et évidemment, il y a une question de rigueur intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'invente pas. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on invente dans la façon de raconter. Mais en tout cas, la matière première du livre, on n'en dispose pas à sa guise. On prend ce qui nous est proposé et rien d'autre. Voilà. Et c'est... Alors, je ne sais pas si... Du coup, j'ai dû un peu dériver de la question. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne.
Et tu parlais du plaisir que tu avais à dessiner, du plaisir que tu avais à dessiner la nature. Mmh. Et on voit à plusieurs reprises dans tes BD, on va aborder une nouvelle BD dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Lulu Femme Nue, qui a récemment été adaptée au cinéma. Et là, c'est pas Lulu Femme Nue d'ailleurs, pas du tout, c'est Les Mauvaises Gens.
Oui.
Mais, mais on va y arriver. Il y a une représentation de la nature qui est souvent concomitante avec celle du silence. Souvent, tes personnages se retrouvent face à un grand panorama. Quand c'est pas utilisé, quand c'est un grand panorama, il y a souvent ce silence. Là, on le voit sur cette case, la première case du haut. On le voit là, dans Lulu Femme Nue, pour le coup, qui raconte l'errance d'une mère de famille qui est un peu oppressée par son mari et par sa famille et qui décide de partir, simplement de tout lâcher et qui va vivre une autre vie à quelques centaines de kilomètres, quand même. À quelques kilomètres de là, près de la plage, avec un autre homme où elle va... sentir un peu la liberté, et la liberté notamment face à la nature. Et du coup, la question c'est, en fait, est-ce que pour toi, le dessin de la nature doit se faire justement dans ce cadre de silence absolu, puisque là, il n'y a aucune parole, par exemple, dans ce beau dessin de la représentation de la nature. Et du coup, est-ce que tu te méfies du beau dessin et du travers du bucolique, en quelque sorte, de la tentation que tu aurais à ne faire que dessiner une belle planche sans raconter quelque chose finalement de...
Je sais pas si... Si, je vois. Oui, la tentation du bucolique, c'est joli. Ouais. C'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure. La façon dont moi j'appréhende ces espaces naturels-là sont, j'espère en tout cas, des... c'est une approche qui doit uniquement être au service du récit que je suis en train de développer. C'est pas forcément le silence. Dans Les Ignorants, je dessine la vigne, mais avec mon camarade vigneron Richard Leroy, chez qui je me suis fait embaucher comme ouvrier vigneron pendant un an et demi.
Bénévolement,
je tiens à le préciser, tu as raison. C'était tout sauf le silence. On n'a pas arrêté de discuter pendant des dizaines d'heures, tu vois, parce que le métier, la pratique, on taille la vigne, on palisse, on pioche, enfin, on fait toutes ces choses. Donc on travaille, mais en même temps on discute. Et l'espace le permet, c'est l'espace du débat, en quelque sorte. En l'occurrence, dans l'exemple que tu montres là, ou dans Lulu Femme Nue que tu montrais tout à l'heure, C'est plus l'espace de la pause. C'est d'ailleurs marrant parce que je n'avais pas fait le rapprochement entre ces deux pages. Pour les resituer, celle-ci, là, donc, que vous voyez actuellement, ça raconte l'histoire de ces jeunes gens qui ont 14 ans, qui ont quitté l'école et qui sont embauchés à l'usine et qui vont, grâce à la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, c'est un mouvement qui a beaucoup fait pour l'émancipation des jeunes gens dans l'ouest de la France, en milieu rural à l'époque. À l'époque, c'est les années d'après-guerre, les années 50, 50-60. Voilà, ce sont des mouvements qui ont permis à ces gens-là de quitter justement leur campagne dans laquelle ils vivaient un peu enfermés entre l'usine et l'église. Et cette séquence-là, voilà, la jeune femme que je dessine là, c'est ma future mère, puisqu'elle a 15 ans, mais je dessine ça d'après ses souvenirs. Donc elle a 15 ans, et à 15 ans, elle découvre la mer pour la première fois, et vit à 100 km de la mer. Mais 100 km dans les années 50, c'était quand on était dans un milieu extrêmement modeste, c'était juste infranchissable. Et l'émancipation au sens politique, au sens social que leur procure la jeunesse ouvrière chrétienne, et passe aussi par une émancipation au sens le plus concret du terme, c'est-à-dire simplement quitter l'endroit dans lequel on a grandi, dans lequel on vieillit, et dans lequel sans doute on va mourir sans doute beaucoup bouger toute sa vie. Et là, voilà, à 16 ans, elle découvre la mer, ce qui est, pour quelqu'un qui habiterait au centre de la Russie, on peut comprendre que ce soit un long voyage, mais pour quelqu'un qui habite dans l'ouest de la France, à 100 km de l'Atlantique, 16 ans maintenant, ça nous semble très tard. Mais ça parle de ça, ça parle du côté un peu enfermé de ces campagnes à l'époque, et du coup la campagne devient, enfin la mer en l'occurrence, là, devient une espèce de nouvelle frontière, quoi.
Et du coup, si on prend ces deux planches, une confrontation qui pourrait être faite sur beaucoup d'autres planches, on peut remarquer que tu as une utilisation qui diffère du noir et blanc, beaucoup pour rural, les mauvaises gens, les ignorants qui seraient plutôt des espaces verts, et la représentation de la mer dans Lulu Famenu, tu utilises la couleur, ou même sur
Un homme est mort,
ouais. Également, où on avait trouvé aussi ces planches de que tu as fait pour Télérama en 2009, si je ne m'abuse, où tu représentes la tempête, mais dans la mer, où là aussi tu utilises la couleur. Pourquoi avoir utilisé le noir et blanc pour ces espaces verts, ou en tout cas dans les ignorants, dans les mauvaises gens, ou dans rural? Pourquoi parfois la couleur? Pourquoi parfois le noir et blanc?
D'autant plus que, si je me permets juste avant que tu répondes, bizarrement, en évitant les catégorisations, mais tous tes BD, entre guillemets, documentaires, sur lesquels tu te fais témoin direct, qui sont représentés en noir et blanc, et celles où, justement, il y a un aspect beaucoup plus romancé, qui sont en couleur. Donc, est-ce que c'est volontaire?
La réponse est un peu dans ta question. D'abord, je dois dire que ce n'est pas une décision rationnelle de ma part. Quand je commence à penser à un livre, le livre se présente à moi avec des caractéristiques techniques qui s'imposent comme ça, et que en général je lutte pas contre ça. Donc Les ignorants, c'est un livre en noir et blanc, enfin, pour être tout à fait précis, au lavis, c'est-à-dire que c'est en niveau de gris. Il y a quand même des gris qui suggèrent les profondeurs, les volumes, les ombres, les lumières, etc. Et puis Lulu Famenu est en couleur, oui, effectivement. Mon obsession à moi, elle est narrative. En bande dessinée, c'est ce qui est prioritaire sur le reste. C'est le récit et la façon de le servir. Et puis, il y a des contraintes techniques aussi. Les ignorants, je savais que ce serait un livre très long. Je savais que je serais à la fois, pendant un an et demi, ouvrier vigneron et auteur de bande dessinée, et que ça allait bien remplir mes journées. Donc, il y a des contraintes techniques qui font que le noir et blanc va plus vite, par exemple. Et que si je fais un livre qui fait 250 pages, le noir et blanc, il est éditorialement plus facile. Et puis, il y a surtout le fait que le noir et blanc me permet, en quelque sorte, sur un livre très, très long, comme ça, d'unifier un peu le récit, parce que sinon, je vais me retrouver avec des ambiances très, très différentes, qui ne vont pas forcément cohabiter aisément. Et puis, à contrario, dans Lulu Femme Nue, par exemple, qui est une histoire, effectivement, assez contemplative, qui se passe beaucoup au bord de la mer, au mois de septembre-octobre, hors saison, les plages sont désertes, il y a une lumière encore assez franche, mais la fraîcheur s'installe. La couleur, elle participe au récit. Il y a la lumière, il y a l'ombre, il y a la chaleur, il y a la fraîcheur, il y a les espaces. Donc c'est quelque chose qui est vraiment strictement d'ordre narratif. Et puis il y a un point aussi qui l'emporte sur le reste, finalement, c'est que, et plus ça va maintenant et plus je vais vers ça, c'est que cette technique du lavis, c'est-à-dire ces nuances de gris posées au pinceau sur la planche, C'est ce qui me procure le plus de plaisir à dessiner. Voilà. La couleur, c'est parfois un peu... Quand on fait 150 pages en couleur et qu'il faut se souvenir de la couleur du jean, de machin, du t-shirt, de truc, de la voiture, de... c'est un peu besogneux. Le lavis permet en quelque sorte de passer là-dessus et de laisser au lecteur, en quelque sorte, si on se débrouille bien en termes de lumière et d'ombre et de volume et tout ça, laisser au lecteur, en quelque sorte, la charge de poser les couleurs lui-même en lisant. Ou pas. Enfin, le lecteur en fera ce qu'il voudra. Le lavis, c'est ça. C'est pas tout à fait de noir et blanc, mais ça permet d'être un peu un intermédiaire entre le dessin au trait, qui serait vraiment noir et blanc, et puis le dessin en couleur. Et il m'arrive parfois de regretter. Il y a un moment dans Les Ignorants, un seul, je crois, où j'ai regretté, c'est la scène où je raconte un orage qui passe au-dessus du coteau. C'était au mois d'août, on était en train de piocher, il faisait très lourd, et tout d'un coup, il y a une espèce de ciel magnifique, ardoise, mais vraiment extrêmement saturé. Et moi encore, je m'en fous un peu, mais le vigneron qui craint la grêle commence à pétocher. Et puis, on regarde cet énorme machin passer au-dessus de nous, et puis finalement, il nous laisse tranquille. Mais il y a une espèce de saturation des couleurs de la vigne, là, qui a été assez saisissante. Et là, je me suis dit, là, c'est, voilà, si j'avais fait une page en couleur dans le livre, elle serait là.
Et tu l'as pas faite.
Et je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite parce que si je m'extrais de l'émotion du moment, ça aurait été bizarre éditorialement, une page en couleur. Et puis surtout, je ne suis pas sûr que j'aurais pu rendre cette espèce de vibration des verres sur le gris qui était assez spectaculaire. Voilà, tout ça. Il m'arrive parfois d'avoir des regrets, effectivement.
Est-ce que c'était finalement la question qui venait juste derrière, est-ce que ça peut t'arriver au-delà de l'aspect justement représentation de la nature, on l'a dit, enfin, ton œuvre elle est bien plus large et il y a également enfin, peut-être deux grandes catégories, c'est cette histoire très documentaire, BD de reportage ou pas, classification, c'est notre spécialisation, et également des récits plus fictifs, mais qui restent, qui paraissent assez documentés aussi. Mmh. Enfin, Lulu, femme nue, et ce que tu dessines, les paysages paraissent pas, en tout cas en tant que lecteur, paraissent crédibles. Est-ce que, enfin, tu as une tentation vers le réalisme, y compris dans la fiction? Est-ce que, enfin, c'est pour toi, il faut que tes paysages, la nature soit fasse partie de quelque chose qui va emmener le lecteur à croire à ton histoire. Tu disais tout à l'heure que c'était important lecteur soit dans le doute.
Ouais. Ah ben, dans le doute sur ce qu'on lui raconte quand je fais un documentaire, oui, j'aime bien l'idée. Bon, on pourra en reparler, mais... j'aime bien faire des repérages pour mes livres, tout simplement parce que j'ai envie que ça sonne un peu vrai. Bon, le postulat de base, évidemment, c'est que c'est faux. Ce sont des fictions, c'est un livre, ce n'est rien d'autre que de l'encre imprimée sur du papier, mais j'aime bien l'idée que le lecteur puisse s'identifier assez rapidement à des lieux. Lulu, femme nue, c'est un récit qui est intégralement dessiné dans des lieux qui existent, même si je ne les nomme pas. Seuls les gens du coin savent que le tome 1 se déroule à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et que le tome 2 se déroule essentiellement au Sable-d'Olonne. C'est pas Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne, ce sont des lieux sur lesquels je m'appuie, mais il y a des choses que je modifie, je déplace des quartiers, je change un peu, je fais des grands travaux en quelque sorte, mais ça c'est la toute puissance du dessinateur. On peut placer un camping en plein centre-ville, il suffit de raser trois pâtés de maison, ça c'est compliqué. Et je m'en prive pas. Mais en tout cas, tout ce qui est... Alors voilà, cette jetée, elle existe, ce petit phare au bout. Si je devais l'imaginer, sans doute qu'il aurait moins de véracité que quand l'ayant vu et l'ayant dessiné sur place. Donc il y a toute cette dimension repérage dont on parlait tout à l'heure, qui est importante pour moi. Et puis j'aime bien ça, il y a une espèce de poésie du détail quotidien. Dessiner une façade d'une vieille baraque, si on le fait de mémoire, on va recourir à des clichés qui sont d'ordre verbal. C'est-à-dire, si on dessine une maison, on pense mur, porte, fenêtre, toit. On passe par des mots. Si tu dessines dans une rue, tu t'aperçois qu'il y a plein de petites choses dont tu ne connais même pas le nom. Des espèces de petits, je sais pas, un bout de gouttière, un raccord électrique, une plaque d'aération que tu n'aurais pas pensé à faire toi-même. Et c'est ces trucs-là qui font sonner vrai un décor. Et j'aime bien ces trucs-là. Je dessine parfois des choses dont je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, dans une rue, il y a plein d'objets, du mobilier urbain, des choses comme ça, comme moi, en tout cas, je n'arriverais pas à imaginer. Donc voilà, j'aime bien authentifier ça comme ça, quitte encore une fois à modifier la topographie générale des lieux.
Et du coup, juste pour continuer sur ça, quand tu dis tu fais des repérages sur le terrain, il y a une chance de te voir dessiner dans le... ou tu prends des photos, tu fais comment? Est-ce qu'on un jour on te voit dessiner dans la rue ou,
Non, je dessine assez peu, je prends beaucoup de photos. Par exemple, sur ces lieux-là, là, qui sont des lieux donc, sur la côte vendéenne, j'y ai passé pas mal de jours. Je regarde notamment j'ai choisi les lieux, même si qu'en général, à ce stade-là, je ne sais pas exactement où tout va se passer, mais en tout cas, je mitraille largement. Merci la photo numérique, avant ça me coûtait un bras en diapositive, maintenant voilà, j'engrange des milliers de photos sans scrupule. Et puis je fais attention aux lumières, par exemple. Ça, c'est un truc auquel je suis un peu attaché, c'est-à-dire que... un endroit à 8h le matin ou à 6h le soir, en fonction des éclairages et tout ça, c'est des ambiances très différentes. Et selon... moi, j'ai le sentiment que je ne peux pas poser des personnages effectuant une action ou déroulant un dialogue de la même façon, sur le même lieu, avec des lumières différentes. Une lumière zénitale du midi en plein été fera forcément une scène plus dure qu'une belle lumière horizontale un soir d'automne. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Moi, je tiens compte de ça. Évidemment, le lecteur s'en fout de tout ça, je ne devrais même pas vous le dire. Ce qui compte après, c'est le déroulé du récit quand la personne lit ça. Mais c'est des choses auxquelles moi je suis attaché. Peut-être pour rien, j'en sais rien. Mais...
C'est ce que tu dis dans Les Ignorants, quand tu dis rajouter un peu de jaune, quand tu es dans l'atelier, quand tu as amené Richard dans l'atelier pour l'impression des premiers cahiers, ouais. Richard Leroy te fait la réflexion du « mais de toute façon, le lecteur ne verra jamais la différence ». Il dit « moi, ça fait un an et demi que je travaille dessus, j'ai envie d'avoir un travail abouti en face de moi et du coup, je veux qu'il y ait plus de jaune ou plus de lumière déjà sur un papier qui est déjà travaillé, de toute façon ».
C'est ça, ouais.
Mais tu disais que c'était extrêmement verbal, c'était très verbal la façon dont on se représentait par exemple une maison avec un toit, de fenêtres, machin et tout. Et justement, dans tes BD, il y a beaucoup de mots qu'on apprend déjà. Et surtout, au cours des mots, entre les mots qu'on apprend, il y a aussi toi qui te mets souvent en scène en train de dessiner et en train de raconter l'histoire en train d'être racontée. Mmh. Il y a souvent cette mise en abîme de l'histoire en train d'être racontée. Et pourquoi tu as cette fascination pour le narrateur se mettant lui-même en train de raconter l'histoire finalement que le lecteur suit? C'est un peu, je ne sais pas si vous voyez, je le dis très mal et je pense que ce sera beaucoup plus simple si on le voit ici, là, on le voit, c'est ta mère qui te raconte comment est la scène et on le voit aussi dans... Là, comment tu reproduis sur son témoignage aussi, mais également dans Lulu Femme Nue, où en fait, ça c'est la première page de Lulu Femme Nue, où on voit un homme qui raconte l'histoire de Lulu, de ce qui arrive à Lulu, je ne peux vous raconter que ce que je sais, et je suis désolé de spoiler, mais la dernière page de Lulu...
Il fallait pas le dire.
La dernière page de Lulu, c'est... Vous aviez qu'à le lire. Mais la dernière page de Lulu, c'est aussi la même scène. On voit vraiment la même scène où de ce qui est arrivé à Lulu, je ne peux vous raconter ce que je sais. Au moins, je vous dis pas ce qui se passe. Mais on a toujours cette fascination. Pourquoi il y a cette fascination du narrateur en train de raconter? Pourquoi toujours ce besoin de...
C'est enfin en fait sur si tu reprends la page de voilà celle-ci. Ce qui m'intéresse moi, c'est aussi de mettre en avant les vertus singulières de la bande dessinée pour faire du documentaire ou du reportage. Par exemple, sur cette page-là, je ne sais pas si vous arrivez à lire les textes. Je suis en train de discuter avec ma mère, on est dans sa cuisine, et je lui demande de... Voilà, ma mère, à 14 ans, est allée dans une usine de chaussures, elle y a passé des années à faire un boulot pas très enrichissant, et cette usine a absolument disparu. C'est-à-dire que... D'ailleurs, ça parle aussi de la façon dont on considérait ces lieux-là. Nulle part, et j'ai cherché vraiment partout, dans les archives municipales, paroissiales, syndicales, etc. J'ai pas trouvé une seule image de cette usine qui a été rasée dans les années 70. Donc, je m'installe à table avec elle, et je lui demande de me décrire les lieux, l'espèce d'atelier grillagé dans lequel elle travaillait, et je dessine directement, d'après sa description, le lieu qu'elle est en train... Alors voilà, ça c'est la version extérieure, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est devant le lieu, vous voyez, sur la première case, on est devant le lieu... où il y a deux maisons au bord de la rue, et derrière, il y avait son usine qui a disparu depuis une trentaine d'années. Et puis, voilà. Alors, évidemment, j'ai résumé notre discussion, sinon ça aurait duré des plombes, mais en une page, je rajoute, moi, graphiquement, l'usine disparue. Et j'aime bien cette idée-là de mettre en avant que la bande dessinée, elle a ce pouvoir-là, dans un même contexte de style, dans un même contexte iconique, de pouvoir générer les images... Vous voyez, par exemple, là, c'est ce grillage, enfin, derrière le grillage, là, c'est la jeune fille qui est surveillée, c'est elle qui bosse à 14 ans. Et c'est une image, ça, que j'ai absolument recomposée en fonction de ses descriptions. Et j'aime bien cette idée-là de, que le livre génère lui-même ses propres images. Donc, dans les 4 premières images, on nous voit discuter tous les deux. Et dans la 5e, il y a le résultat de notre discussion. Et tout ça, c'est dans le même champ, c'est dans le même, c'est dans le même processus narratif. Et la bande dessinée permet ça. Elle permet ça avec pas grand-chose, c'est juste deux personnes qui parlent. Il y en a un qui a un crayon dans la main et une feuille de papier. Et j'aime bien ça, j'aime bien aussi l'idée de dessiner une scène où des gens me parlent, me racontent une anecdote de leur existence. Et ensuite, la scène d'après, je leur ramène les pages que j'ai dessinées, que le lecteur a lues, puisqu'elles sont dans le livre chronologiquement. Et donc, je refais une scène où les gens, je ne sais pas si vous me suivez, les gens que j'ai dessinés, là, lisent la page racontant leur... l'événement qu'ils viennent de me raconter, en quelque sorte. Donc le récit s'auto-alimente lui-même, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, propre à la bande dessinée et dont je ne me prive pas. Par exemple, pour la faire courte, je peux vous citer une anecdote à propos des mauvais gens. Je vous ai parlé de la JOC tout à l'heure, la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc, dans les années 50, ma mère et mon père, à 14-15 ans, ont vu débouler un jeune vicaire, je crois, on appelle ça. Donc, c'était une espèce de curé qui était guère plus âgé qu'eux, qui arrivait dans leur village pour leur... pour les inciter à se prendre en main, pour les inciter à créer des sections syndicales. Enfin, c'était une conception très singulière du rôle d'un curé, qu'on ne retrouve plus beaucoup maintenant. Enfin bref, toujours est-il que ce type-là, qui avait une vingtaine d'années à l'époque, a disparu de leur vie après, pendant des dizaines d'années. Ils ne savent pas du tout ce qu'il est devenu. Et donc, à l'époque, ils avaient moins de 20 ans, quoi. Ils avaient une vingtaine d'années. 5 ans plus tard, ils se rencontrent. 6 ans plus tard, je nais. 30 ans plus tard, je fais le livre. 35 ans plus tard, je retrouve le curé, qui entre-temps a quitté la prêtrise, s'est marié, a divorcé. Donc c'est un parcours assez singulier pour un curé. Mais il ne veut pas que je cite son nom, mais il veut bien me rencontrer. Alors j'ai mis des mois à le retrouver. Et donc je ne le dis pas à mes parents. C'est un gars qui était important pour eux parce qu'il leur a permis de changer leur... Il a changé beaucoup de choses dans leur vie. Il leur a permis de s'émanciper de beaucoup de choses et puis il leur a permis de se rencontrer accessoirement. Donc il m'a permis à moi d'exister. Enfin, vous voyez le truc. C'est pas rien. Et donc le curé en question, qui n'est plus curé, me dit « Ok, ben, je me souviens très bien de tes parents. Je veux bien te rencontrer. » Donc on se rencontre un matin au bord de la Loire. Je ne dis rien de tout ça à mes deux personnages principaux qui sont mes parents. Je rencontre le voilà. Je rencontre l'homme en question, on discute, c'est assez intéressant. Je vais dans mon atelier pendant 15 jours, je dessine la séquence, et je vais voir mes parents, et je leur donne les pages sur leur table, et je leur dis, ben voilà, lisez ça. Et je dessine leur réaction. Voilà, c'est quelque chose que la bande dessinée permet, c'est-à-dire que l'histoire enrichit l'histoire. Et là, voilà, ma mère découvre les pages, et puis voilà, elle les passe à mon père, il se dit, ah, voilà, tu l'as retrouvé, c'est incroyable, comment il va, etc. Alors, évidemment, moi, je ne garde dans le récit que ce qui concerne le récit. Tout ce qui relève de leur vie privée stricte, je ne le mets pas. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
Et pour continuer, justement, tu dis personnages, mais c'est là, en l'occurrence, des personnes réelles.
Ouais.
Comment ils perçoivent la manière dont tu les dessines, puisque ça t'est arrivé plusieurs fois dans les bandes dessinées de dire que, justement, ça n'avait pas toujours été bien accepté.
C'est vrai.
Donc, et comment tu fais les choix, parfois, de transformer certaines personnes?
Alors bon, j'ai un souci d'ordre technique, je suis un très mauvais portraitiste. Et puis surtout, c'est pas mon job. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de développer le récit. Et mon obsession n'est pas de dessiner à chaque fois. Chaque personnage, je le dessine des centaines de fois dans un livre. Donc j'ai pas cette obsession que chaque image soit absolument ressemblant. Donc en fait, je recrée, pour chacun des personnages, moi compris, parce que je me mets souvent en scène, je recrée un personnage qui a leur biographie, leur nom, leurs caractéristiques physiques essentielles et psychologiques principales. Et voilà, c'est ce personnage-là qui va être l'ambassadeur de la personne réelle à qui je demande de me raconter son existence. Et souvent, ça pose problème. Ouais, c'est vrai. Souvent que les gens me disent « je ne suis pas comme ça, j'ai pas ma pauvre maman m'en veut beaucoup, je l'ai honteusement massacrée graphiquement. » Mais en tout cas, à la fois, moi, ça me permet de créer une distance qui me permet d'animer le personnage. C'est-à-dire que cette petite distance physique entre la personne réelle et le personnage dessiné, c'est cette distance qui me permet à moi de m'en saisir et de l'animer, de la faire parler, etc. Et elle m'est indispensable. Mon copain Olivier Sébron, agriculteur, me reproche d'avoir fait 20 kilos de trop. Bon, je suis désolé Olivier, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mais à la fois, ils n'en sont pas contents, mais en même temps, pour eux, je crois que pour eux aussi, c'est un confort. C'est-à-dire que okay, la personne qui est dessinée dans le livre d'Étienne Davodeau, c'est moi, parce qu'elle a mon nom, elle raconte ce que j'ai fait, tout ça, mais en même temps, c'est pas moi. Donc c'est à la fois une contrainte pour eux, parfois un peu désagréable, puis en même temps un confort qui leur permet de se dissocier réellement du personnage en question. Et de la même façon, quand je m'apprête à dessiner quelqu'un dans un de mes livres, je lui propose un marché, qui est un marché qui est non négociable. Alors on l'accepte ou pas, mais si on ne l'accepte pas, on ne fait pas le bouquin. Le marché consiste à dissocier trois niveaux de discours dans le livre. Par exemple, dans cette planche-là, Olivier Sébron ou Étienne Sébron, son frangin ici, agriculteur, me parle. Donc vous parlez, vous lecteurs. Ce qu'ils disent, ce qu'ils me disent, ce qu'ils vous disent, ils en sont responsables à 100%. Si quand moi je leur amène les pages, parce que je fais toujours relire mes pages aux gens que je dessine, s'ils considèrent qu'ils ont envie de changer la teneur de la bulle, enfin du texte que je suis en train de leur faire lire, s'ils considèrent que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont dit, ils le changent et moi j'obtempère, je change le texte. Ça m'est très précieux parce qu'au moins d'un point de vue technique, ça m'évite de dire trop de bêtises. Mais parfois c'est simplement d'un point de vue de la tonalité, de ce que, voilà, ils voient à l'écrit ce qu'ils m'ont dit à l'oral et parfois le passage de l'un à l'autre ne leur convient pas. Donc ça, il n'y a pas de problème, ils ont le droit d'y toucher. Autant qu'ils veulent. Ça, c'est ce que je leur promets et en général, je m'y tiens. En contrepartie, il y a deux autres niveaux de lecture où ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est ce que moi, personnage de bande dessinée, je dis. Donc il y a des séquences où je me dessine parlant. Même si ça ne leur plaît pas, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Et puis le troisième niveau, c'est ce que moi, auteur de bande dessinée, je dis. C'est-à-dire que c'est principalement ce genre de textes qui sont dans des carrés, dans les bulles. Ça, ce n'est pas le personnage de bande dessinée Étienne Davodeau qui parle, c'est l'auteur du livre. Et ça, même si ça ne leur convient pas, ils n'ont pas le droit d'y toucher. C'est ça le marché. Et là, tous les gens qui figurent dans mes livres ont accepté ce marché-là. Alors, parfois, c'est très long. Parfois, on négocie à la virgule comme des chiffonniers, c'est infernal. Mais si la page est dans le livre, c'est qu'on a réussi à trouver un accord sur ce point-là. Je me souviens de négociations interminables avec Richard Leroy dans Les Ignorants à propos du soufre. Chez les vignerons, je ne sais pas s'il y a des vignerons parmi vous, mais chez les vignerons, la question du soufre qu'on met dans le vin pour le conserver, pour le stabiliser, est une question, disons, épineuse, centrale et douloureuse. Donc on en met très peu. Certains ayatollahs du vin tentent de n'en mettre pas du tout. Mon camarade Leroy est un de ces ayatollahs. Et voilà, je sais que c'est un sujet sur lequel il n'est pas à l'aise, c'est compliqué. Et on s'est vu tous les jours, hein, pendant un an et demi, deux ans, on a vécu quasiment ensemble, puisque j'avais travaillé dans ces vignes tous les jours. Et le jour où je lui ai soumis mes planches où il parlait du soufre, il m'a dit non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, donc j'ai changé. Il m'a dit non, c'est pas non plus tout à fait ça. Et au bout de 8 jours, je lui ai dit écoute, on va faire les dialogues par mail parce que là, on va pas s'en sortir. Donc on habite à 300 mètres l'un de l'autre. Mais la nuance entre je mets très peu de soufre et je mets presque pas de soufre, qui pour moi est pas fondamentale, a été l'occasion de 15 jours de négociations âpres. Et voilà, il y a des sujets sur lesquels, comme ça, je dois laisser la parole à la personne, sinon on va pas s'en sortir. Et en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et dans la représentation de Richard Leroy, d'ailleurs, il y a une transformation à un moment où on passe au printemps. Mmh. Et tu dis, ça y est, c'est le printemps parce que le Richard Leroy, l'animal Richard Leroy a enlevé sa barbe hirsute. Ouais, il ressemble moins à un gros Gaulois avec sa barbe qui se protège du froid. Et il a un visage poupon. Et tu lui dis d'ailleurs, je vais avoir du mal à te dessiner maintenant, t'aurais mieux fait de la garder.
Oui, parce qu'il y a c'est deux personnages, ce type-là. Ouais. Ouais, c'est effectivement ça. Ouais.
du coup, juste pour revenir un peu... sur ce qu'on disait, j'ai une question sur les choses que tu utilises, toutes ces coupures de journaux que tu utilises. Pourquoi tu as un besoin, simplement tu dis que tu prends des photos, pourquoi ne pas simplement faire figurer les photos et le besoin de les redessiner? Alors certes, là on peut le voir pour la première case, je suppose que c'est pour amener un cadre particulier sur le mot inattendu, ce que donnerait moins une photo un peu peut-être plus pixelisée ou quoi que ce soit. Mais par exemple, sur ce genre de sur la deuxième case ou cette case à droite, pourquoi pas directement insérer, comme par exemple le fait Emmanuel Guibert dans le photographe, tout ça, directement la photo avec le travail de Didier Lefebvre?
C'est un truc sur lequel j'ai pas encore résolu la chose complètement. Là, en l'occurrence, ce que je montre là dans la première case verticale, là, c'est l'extrait d'un livre sur les courageux syndicalistes chrétiens dans les usines sombres des infâmes patrons dans les années 50 qui luttent pour leurs droits. Et donc c'est un livre extrêmement romanesque. On voit donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un personnage là par provocation, un ouvrier non catholique a arraché sa croix, son pendentif, et le gars se grave une croix au sang comme ça en disant « celle-là, tu ne l'enlèveras pas ». Et moi, quand j'étais gamin, ça me terrorisait, ce genre de récit. Je me disais « waouh, c'est... c'est des mecs qui en ont, quoi. Moi, je n'oserais jamais faire un truc pareil, c'est ça le dialogue. » Bref, ce livre-là, ça fait partie de ma formation. Enfin, l'éducation que j'ai subie, qui est une éducation très religieuse, elle est passée par ce genre de récit, par ce genre de livre qu'on me faisait lire. Et donc, je remets dans le livre, dans mon livre à moi, je remets un extrait du livre en question. Et pour le faire, en l'occurrence, là, j'intègre réellement la page. Donc, c'est une façon d'authentifier, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est comme cet article-là, c'est une façon de recontextualiser, avec des coupures de presse de l'époque, avec des extraits de livres de l'époque, de recontextualiser ce que je suis en train de raconter 30 ou 40 ans après. Et là, c'est un extrait d'un journal de l'époque, donc il faut le chercher, il faut le trouver, il faut avoir l'autorisation, mais...
Et tu décalques ?
Non, là, c'est simplement... Alors, à l'époque, c'était des photocopies. Maintenant, ça serait évidemment fait sous Photoshop, mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Mais ça me pose un problème graphique, parce que ça fait une graphiquement, c'est quelque chose d'assez froid. Enfin, c'est un article, c'est toujours un peu froid, donc j'essaie de trouver des subterfuges pour...
Moi, je me suis demandé, d'ailleurs, en le lisant, est-ce que c'est une image qu'on lit ? Parce qu'on va lire ton texte autour, mais est-ce que l'article, on est... bêtement obligé de le lire, alors que j'ai le plaisir moi de lire de la bande dessinée, j'ai pas envie de lire un article du Monde forcément, ouais. Donc du coup tu le lis quand même parce que tu dis que c'est en rapport avec l'histoire, mais y a, ça pose quand même en quelque sorte une certaine distance d'un coup qu'on a, ouais. Comme face à un texte journalistique en fait, et du coup c'était vraiment, est-ce que c'est fait exprès ou...
C'est fait pour pouvoir être lu, la liberté du lecteur est absolue, c'est-à-dire que si je la mets là, selon le degré d'intérêt du lecteur, il lira simplement le titre qui est très clair, le titre de l'article, où il lira le détail de l'article.
D'accord.
Je t'en prie. Oui, sur tout ça, où tu documentes, en même temps, tu l'as dit, c'est aussi pour légitimer ta position par rapport à l'histoire, enfin, en tout cas, pour légitimer vis-à-vis du lecteur le fait qu'il peut être dans le doute, ou en tout cas, tu souhaites qu'il soit dans le doute avant de recevoir ton histoire. Je crois que c'est dans Rural, où sur la planche 38, tu dis justement regarder, écouter, raconter, dessiner. C'est presque ton programme de bande dessinée, tu nous donnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu poses. Ouais, on aurait dû le mettre chose. Enfin, dans cet avant-propos,
oui,
y a tout ce paratexte aussi que tu nous donnes. Enfin, on n'est pas, on reçoit pas tes bandes dessinées comme directement on entre dans le dessin. Tu donnes des choses autour.
Alors, en l'occurrence là, c'est très particulier. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ça, c'est les années 2000. Enfin, c'est 2000 ou 2001. La bande dessinée de reportage ou documentaire en France, ça existe à peine. Il n'y en a pas beaucoup. Le premier livre de Joe Sacco, qui s'appelle Palestine, Nation occupée, je crois, vient d'être traduit en français. C'est un des rares livres reportage en bande dessinée. Il y en a quelques-uns, hein, je ne vais pas prétendre avoir inventé la chose, loin de là, mais en tout cas, des créations francophones en 2001, il n'y en avait pas des caisses. Et donc, moi, quand je publie Rural, qui donc est cette histoire d'agriculteurs expropriés et d'autoroutes en chantier, j'ai bien conscience que c'est un peu un objet un peu incongru dans une librairie, donc je me sens obligé d'expliquer l'exercice auquel je me suis livré. Donc voilà, là, le rôle de cet avant-propos, c'était ça. C'était d'expliquer que voilà, la bande dessinée va peu vers le réel, et que là, moi, j'avais envie d'essayer. Et puis j'ai essayé d'expliquer la méthode, très brièvement, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire un objet théorique et froid, mais... Simplement, ce texte-là a pour rôle de dire, voilà, vous allez lire une histoire de bande dessinée, c'est de la bande dessinée à 100%, enfin, je prétends que c'en est. Simplement, cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée, les gens que vous allez voir dans ce livre, ils bossent, là, en ce moment, au moment où vous lisez votre livre, ils sont en train de traire leur vache ou de faire je ne sais quoi, et voilà, ça permettait d'afficher ça, simplement.
D'ailleurs...
Je ne le fais plus maintenant, parce que la chose est plus admise 15 ans après, quoi.
Oui, c'est vrai, en plus, tu ne le fais pas pour les ignorants.
Non, je ne le fais pas.
Mais moi, je trouve que tu as une très belle formulation. C'est pas pour faire de la lèche ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que là, pour le coup, on pose souvent ce problème dans les sciences humaines, le problème de l'objectivité et de la vérité, notamment en histoire. En géo aussi, mais en histoire, il y a vraiment le problème de l'objectivité. Est-ce qu'on peut parler de vérité historique ? Et là, tu as vraiment cet aspect. Dans cette course à la probité, on peut essayer une tactique inverse. Et tu dis que l'idée est de se représenter pour que le lecteur ne puisse plus oublier qu'entre lui et ce qu'il lit, c'est bien un individu qui a tout organisé. Il y a quelque chose d'extrêmement honnête dans ta façon de présenter, justement, de dire oui, c'est un récit subjectif, c'est un récit quand même, il faut le prendre avec la dose d'information, mais en même temps la distance qui est nécessaire. Et, personnellement, je trouve que c'est à la fois c'est très honnête et très bien, mais tu as ce souci de subjectivité, de dire la subjectivité, ouais. En quelque sorte.
Mais le fait que ces récits documentaires soient dessinés porte en eux-mêmes. Le fait que ça soit dessiné, on parlait de la méfiance au tout début. Souvent, on me dit, bah voilà, vous avez fait un documentaire, là, mais comme vous avez tout dessiné, vous pouvez très bien avoir tout inventé. Ce qui n'est pas faux. Je peux avoir tout inventé, effectivement, et simplement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a cette méfiance devant la nature de l'image. C'est une image qui est dessinée, donc elle est susceptible d'être totalement fictive, alors que vous, auteur, prétendez que c'est un reportage. Donc, l'idée pour moi, c'est d'expliquer qu'une image, quelle que soit sa nature technique, qu'elle soit dessinée avec un stylo et du papier, ou qu'elle soit tournée avec une caméra pour le journal de Jean-Pierre Pernaut, c'est une image. Une image, c'est une construction intellectuelle. Elle est précédée d'intention. Elle est créée par quelqu'un dans un but précis. Le gros avantage du reportage dessiné, c'est qu'elle porte, elle porte tout ça dans sa façon d'exister. Je veux dire qu'une image dessinée, c'est forcément, elle porte en elle-même sa réinvention. On voit bien que c'est pas réel. Alors que quand on regarde un documentaire à la télévision, on se dit c'est filmé, donc ça existe.
On oublie que c'est cadré, par exemple.
C'est cadré, voilà, on oublie tout ça. Et alors que, voilà, moi j'accepte volontiers qu'on se méfie de mes documentaires dessinés, si on se méfie tout autant des documentaires filmés d'un journal télévisé, puisque de toute façon, quelle que soit sa nature technique, une image, c'est toujours une création intellectuelle. L'image vidéo a ce côté un peu vicieux d'être tellement proche des choses réelles qu'on les confond facilement. Mais une image vidéo n'est pas plus honnête qu'une image dessinée. Je pense même qu'elle l'est moins, puisque l'image dessinée porte en elle-même son côté artificiel. Je ne sais pas si je suis clair, mais enfin, l'idée, elle est là pour moi. Et c'est aussi une des vertus de la bande dessinée en documentaire, je pense.
Le dessin introduit nécessairement, on se dit, il a représenté, il y a quelqu'un qui... On pense au dessinateur. Voilà.
Et c'est aussi pour ça que je me mets en scène. Quand on voit, au journal télévisé, un reportage, on voit rarement le gars qui cadre. On nous montre les événements dans une ville en Ukraine, mais on ne sait pas pourquoi le gars choisit ce plan-là plutôt que celui-là, on ne sait pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais on prend tout ça pour argent comptant, parce que c'est un journal télévisé, parce que c'est une image vidéo et parce que c'est vrai.
De même qu'en Centrafrique, on cible sur les massacres entre chrétiens et musulmans, alors que c'est un conflit qui dépasse plein d'autres
voilà,
choses.
Donc, la méfiance, je trouve ça très sain. Il faudrait l'appliquer à toutes les images.
Oui, d'ailleurs, dans Rural, tu dis raconter, c'est cadrer, c'est éluder, c'est mentir. Enfin, tu donnes plein de choses au lecteur pour qu'il sache ta subjectivité. Mais est-ce que tu as aussi le sentiment que c'est parce que Rural, dans les années 2000, c'est déjà les premières amorces de la BD de reportage, mais c'est aussi la question de la légitimation de la bande dessinée en général, qui peut être vu, tu l'as dit, plutôt comme la BD humour, par une partie de la société comme encore du mauvais genre.
Oui, il y avait c'était un contexte très différent. Oui, c'était un contexte très différent dont je me rendais bien compte quand j'allais rencontrer des gens pour les interviewer dans le cadre du livre. Quoi. J'ai rencontré des élus, des députés, des gens comme ça. Et je leur disais, bonjour, je fais un reportage. Au début, je ne cite pas la bande dessinée, au moins pour les premiers contacts. Je dis, je fais un reportage sur le chantier de la 87, est-ce que vous pouvez me recevoir? Et quand j'ai le rendez-vous, je leur dis que c'est de la bande dessinée. Et là, il y a un mouvement de recul. Enfin, il y avait tout de suite, les gens se disent, attendez, c'est un truc sérieux, faut pas rigoler avec ça. Sous-entendu, la bande dessinée, c'est les bidochons, c'est l'humour.
Kid Paddle,
voilà. Donc, je suis obligé de faire... À l'époque, en tout cas, ma première étape était une étape de pédagogie, d'expliquer que la bande dessinée, c'était pas forcément ça. Que c'était un langage, la bande dessinée, et qu'avec un langage, on peut faire beaucoup de choses différentes. Et que là, moi, mon propos, c'était de faire un reportage. Alors, ils me disaient, vous allez faire un truc sérieux. Alors, je leur disais, oui, sérieux, au sens où... Oui, il y aura peut-être un peu d'humour, mais ça sera pas un truc déconnant. Ce que je veux raconter, c'est des faits réels, et si vous acceptez de témoigner, je leur parlais là du fameux pacte dont je vous parlais tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, je devais donner des garanties, parce qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, on était un peu suspect. 15 ans après, les choses se sont un peu améliorées, mais ça restait un problème. Il fallait d'abord se justifier, justifier au nom de quoi on venait faire un reportage. Et on n'était pas journaliste en plus. Je me suis fait arrêter par les flics quand j'ai fait une revue qui n'existe plus, qui s'appelait Bang, qui faisait des reportages en bande dessinée il y a quelques années. J'ai fait un reportage sur le G8 de l'environnement à Paris. C'était donc les 8 ministres de l'environnement des pays les plus industrialisés qui se réunissaient. Donc moi, j'essayais de voir ce qui se passait, j'essayais de rentrer, je me suis fait arrêter par les gendarmes qui m'ont demandé ce que je faisais, je leur ai expliqué que je faisais un reportage, ils m'ont demandé ma carte de presse, je leur ai dit que j'étais pas journaliste. Donc déjà, c'était compliqué. Quand je leur ai dit que je faisais de la bande dessinée, là, du coup, ils m'ont serré d'un peu plus près. Et ils m'ont arrêté, quoi. Il a fallu que j'appelle la rédaction de la revue, qu'eux-mêmes expliquent que la bande dessinée de reportage, vous savez, c'est un truc nouveau. Il a fallu faire expliquer à un commissaire ce qu'était la bande dessinée de reportage. Et le mec ne voulait pas en démordre, mais il n'a pas de carte de presse, c'est pas un journaliste. Alors non, effectivement, c'est pas un journaliste, c'est un dessinateur de bande dessinée. Donc il y avait tout ça qu'il fallait sans arrêt porter avec soi, en quelque sorte. Il y avait cette méfiance.
Mais du coup, comment t'as trouvé un éditeur à ce moment-là? Parce que, comme tu le dis, Josaco, qui maintenant voilà, impose un petit peu un style, et un peu l'image emblématique, en tout cas, d'un style, je crois que le premier tome de Palestine, c'est 96 aux États-Unis, donc arrive un peu plus tard.
C'est un peu avant,
c'est 96 la traduction en France.
Peut-être 92, ou c'est début.
Je crois que je l'ai lu en anglais. Fin des années. Moi, je sais pas, je suis pas fort en date.
Ouais. Oui, en tout cas, c'est à l'époque ça s'impose pas encore.
Non,
Palestine,
ça
s'est plus vendu après, quand il a commencé à faire aussi celle de la Bosnie et qui nous en est arrivé beaucoup. Comment tu trouves un éditeur à ce moment-là pour aussi accepter ça? Parce que là, tu parles du regard de gens, mais on t'a suivi facilement.
Pour Rural, donc en. Moi, j'ai commencé à démarcher les éditeurs, je pense, en 99, au moment où je commence à passer du temps avec mes trois copains agriculteurs. Et donc, je me souviens très bien, je suis allé voir mon éditeur de l'époque, c'était les éditions Delcourt. Je leur ai expliqué mon projet. Ils ont levé un sourcil comme ça, ils se sont dit, non, on ne va pas le prendre. Et puis, je suis allé voir Dargo, ils m'ont dit, oh non, c'est bizarre, je ne vois pas trop, des histoires de vaches en noir et blanc, 150 pages. si je rencontrais le directeur du marketing éditorial, le gars, il s'évanouissait de frayeur, donc bon, c'était pas gagné. Mais simplement, moi, le chantier avançait. Je pouvais pas attendre, je pouvais pas dire à tout le monde, arrêtez les bulldozers, j'ai pas d'éditeur, tu vois, c'était pas... Donc j'ai commencé à faire le livre et j'ai bossé 6 mois à peu près sans éditeur. Ce qui était une étape. Quand j'allais voir les élus, je leur expliquais, c'est un reportage en bande dessinée, et en plus, j'ai pas d'éditeur. La crédibilité de tout ça était compliquée à établir.
Sans avance.
Moi, ça me posait un énorme problème pour nourrir ma famille, tout simplement, parce que j'avais pas d'argent. Et donc, j'ai pu commencer grâce à une bourse du Centre National du Livre, qui m'a fait tenir à peu près 6 mois. Enfin, je l'ai fait durer un petit peu. Et puis, j'allais sans arrêt chez Delcourt avec mes paquets de planches que je faisais. Je leur disais, je vous préviens, voilà, j'en suis là, tout ça. Et puis, je crois que je les ai eus par lassitude. Au bout d'un moment... Au bout d'un moment, ils m'ont dit, on va le faire ton livre sur les vaches. Sous-entendu, après, tu nous feras des trucs plus sérieux. Donc, le livre a été publié en 2001. Et il s'est passé un truc que ni eux ni moi n'avaient prévu, c'est que ce livre a suscité pas mal d'intérêt, notamment des journalistes, et puis qu'il ne s'est pas planté commercialement. C'est loin d'être un succès à l'époque, mais l'éditeur m'avait suffisamment mal payé pour qu'il s'y retrouve assez rapidement. Et donc, du coup, l'hypothèse de retenter l'expérience n'était pas totalement exclue. Ce qui aurait été vraiment le cas si ça avait été un bide. Mais voilà, le livre s'est gentiment vendu, il a généré pas mal d'articles, il a eu un prix ou deux. Enfin bref, il y avait un truc qui se passait autour de la bande dessinée de reportage. Il y avait Sacco, il y avait le photographe. Je sais pas si ça commençait le photographe déjà. Enfin, il y a 2 ou 3 livres qui sont arrivés à peu près en même temps autour de ce sujet-là. En tout cas, Rural et quelques autres livres faisaient partie, sinon de la première vague, en tout cas des premières vagues de la bande dessinée de reportage. Et puis ça a généré quelque chose de nouveau, c'est qu'on s'est aperçu que des gens venaient lire ce livre sans être des lecteurs de bande dessinée préalable. Certains même lisaient le livre malgré le fait que ce soit de la bande dessinée.
Plus mine de rien, ça cadre aussi avec les années d'élargissement du public de bande dessinée.
Oui, voilà, il y a eu une espèce de coïncidence heureuse là. Et donc les éditeurs se sont aperçus que ce n'était pas forcément des bits commerciaux, que ça amenait éventuellement des nouveaux lecteurs, et donc ils ont trouvé que la bande dessinée de reportage, finalement, ça valait peut-être le coup de creuser le sujet.
Des mauvais gens.
Alors bon, je résume un peu, ce n'est pas que des gens intéressés par les résultats marketing, mais c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger quand on est éditeur, et c'est normal. Et donc j'ai pu, moi, quelques années après, leur proposer un nouveau projet sur le milieu dans lequel j'avais grandi, et donc c'était les mauvais gens, voilà. Les mauvais gens a bien marché, donc voilà, les choses se sont un peu assises. Puis entre-temps, il y a eu le photographe d'Emmanuel Guibert, il y a eu d'autres bouquins à droite à gauche, et les choses ont démarré.
Et après, t'es parti chez Futuropolis, parce que décidément, Delcourt, ils comprenaient.
C'est plus compliqué que ça, mais oui, il y a eu des... Voilà, après, ce sont des relations de personnes, oui.
Et du coup, tu parlais du Centre National du Livre qui t'avait donné des subventions. Est-ce que tu considères, du coup, ton métier comme un artisanat? Ce que t'as tendance à dire, par exemple, sur cette planche, tu fais souvent le parallèle dans Les Ignorants, notamment entre le travail du viticulteur ou tout ce qu'on veut
vigneron,
mettre,
ouais.
Vigneron, viticulteur, voilà, et ton travail, notamment dans le cadre, tu fais une analogie entre l'imprimerie
entre le papier, le choix du papier et la barrique, tu dis c'est à peu près la même chose. Donc est-ce que tu considères que ta BD c'est aussi une forme d'artisanat? Est-ce que tu te sens proche du travail d'artisan de...
Non, je ne considère pas que la bande dessinée soit un artisanat. Je pense que c'est un mode d'expression. Et dans le cadre de l'histoire de ce mode d'expression, il y a des livres qui sont des œuvres d'art. Dans la mesure où Maus de Spiegelman existe, dans la mesure où Tintin au Tibet existe, la bande dessinée, c'est un art. Voilà. Je ne dis pas que tous les livres de bande dessinée sont des œuvres d'art, loin de là. Quand je rentre dans une librairie, en général, je sors avec une vague envie de suicide. Mais il y a des livres de bande dessinée qui le prouvent. Même s'il y en a un par an, moi, ça me suffit. Ça prouve que ça vaut le coup d'essayer. Il y a aussi des tombereaux de livres qui m'emmerdent terriblement et qui... Voilà, ça... Mais c'est ça. Je pense que la bande dessinée est potentiellement donc un art. Je ne parle pas de mes livres à moi, hein. Je parle de ce que la bande dessinée peut faire. Donc ce n'est pas un artisanat. À mon avis, c'est l'un ou l'autre. Je pense que le vin est un artisanat. Il y a certains vignerons qui ont une démarche qui dépasse très largement celle qui consisterait à produire un objet agricole. Le vin, le blé, le maïs, eux, ils font du vin. Mais les raisons pour lesquelles ils font du vin, la façon dont ils font du vin, fait que ça dépasse très largement le stade de l'artisanat. Richard Leroy, il fait du vin comme un objet social, presque. Il fait du vin pour les gens qui vont le boire, avec des valeurs précises. Donc son vin, ça n'a rien à voir avec 75 centilitres de jus de raisin fermenté au Super U. Ça n'est pas ça du tout. Même si physiquement, c'est ça. C'est pas au Super U, en l'occurrence. Mais il y a différentes façons de mener différentes activités. Je ne sais pas s'il existe des vignerons qui sont des artistes. Je n'ai pas la réponse à ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des auteurs de bande dessinée qui sont d'authentiques artistes. Emmanuel Guibert est un artiste. Voilà. D'accord. De mon point de vue, tout ça est très très discutable.
Et moi je vais revenir en arrière parce que avant de rebondir, tout à l'heure tu parlais du succès, tu dis relatif de Rural, mais qui est devenu un gros succès, plusieurs rééditions, et actuellement sur les ignorants, donc sur la vie, ça parle aussi à des territoires autres, à des terroirs autres, puisque tu es en train de traduire, les ignorants. Peut-être pas toi, en italien, je crois. Enfin, il y a une traduction.
Oui, non, c'est pas moi. Je parle pas italien du tout. Ouais.
Et du coup, elle est aussi en train de véhiculer pour d'autres terroirs, puisque l'Italie est aussi concernée par la vigne. Mais comment tu vois cette traduction au-delà de l'aspect commercial? Toi, est-ce que ça t'échappe?
Ça m'échappe. Oui et non. Enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que la bande dessinée, elle n'est pas uniformément présente sur toute la planète. Il y a des endroits où on s'en fout de la bande dessinée. Il y a des endroits où elle est relativement... Elle est en cours de renaissance. Il y a des endroits où elle est très active. Alors l'Europe francophone, elle est très active. Les États-Unis, le Japon, la Corée, il y a beaucoup de bandes dessinées. Et puis il y a des pays où elle est en moribonde. Il y a des pays où elle est en phase de reconstruction. Enfin bref, un livre de bande dessinée se traduit moins facilement qu'un roman. Moi, j'ai la chance d'avoir des livres qui sont plutôt pas mal traduits à l'étranger. Et Les Ignorants, effectivement, est traduit dans, 5, 6, 7 pays, je ne sais pas. Alors, ce qui n'est pas énorme pour un romancier, mais pour un auteur de bande dessinée, ce n'est pas si mal. Alors, évidemment, oui, ça m'échappe, parce que la plupart du temps, ce sont des langues que je ne parle pas. Mais en même temps, je fais confiance aux traducteurs. Et puis, même si ce sont souvent des tout petits tirages, très confidentiels, moi, j'adore ça. J'adore l'idée de savoir que mon livre part dans un autre pays, qui va être lu par des gens dont je ne parle pas la langue, qui va peut-être générer des choses nouvelles, des réactions, des mails, enfin je ne sais pas. Ça fait partie de la vie du livre et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, l'idée de voir voyager comme ça. Voilà.
Peut-être une dernière question, après on fait une petite pause, peut-être histoire de pause pour même l'auditoire qui est peut-être un peu... la pression de ce dialogue excessivement dense et intéressant méritait une pause. La dernière question, c'est sur ta propre représentation. Tu te représentes dans tes ouvrages. Je vais essayer de te trouver. Voilà, par exemple, là tu apparais en train de dessiner en disant moins vite, les gars. Et en même temps, on voit que tu as pris de l'âge entre les deux.
Ouais, si ouais,
et est-ce que ça... C'est ni constatation négative, mais est-ce que ça toi, tu prends un malin plaisir à dessiner, et comment tu te quand tu veux te représenter, est-ce que tu décides vraiment de te représenter tel que tu es maintenant ou tel que tu étais, ou est-ce que tu as tendance à changer ta représentation, ou on s'en fout et tu te représentes
comme... Tu noteras que ma calvitie avance.
Si peu.
Et que... Non, ça c'est très... Alors non, j'ai aucun plaisir à me dessiner, ça m'emmerde un peu pour tout vous dire, mais pour ce genre de livre, je ne sais pas faire autrement, c'est-à-dire que je me mets toujours en scène. Alors en l'occurrence, dans Les Ignorants, il y a deux personnages principaux, c'est Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée, et Richard Leroy, vigneron. Donc là, j'ai dû me faire violence. Alors j'essaie d'actualiser, mais c'est toujours très compliqué de se dessiner soi-même, et de se dessiner soi-même souvent en plus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'établis un espèce de... Alors voilà, j'ai été barbu une époque, voilà, bon... J'établis une espèce de personnage ayant vaguement mes caractéristiques physiques. Et puis voilà, quoi.
Tu parlais d'avatar tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment une sorte d'avatar. Là, je suis en ce moment de dessiner un documentaire où je dois me redessiner. Ben voilà, j'essaye de faire en sorte que ça soit plus ou moins ça. Mais j'imagine que sur... Si je vis assez longtemps et que je dessine encore à 80 ans, j'imagine qu'on verra la dégradation physique au fur et à mesure des livres, probablement. J'espère, enfin, ce serait normal. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une obsession. C'est pas du tout un autoportrait. De la
c'est
même
pas
façon,
Rembrandt, quoi.
Non, pas du tout. Non. Je confirme que je ne me compare pas avec Rembrandt. Voilà.
Du coup, on vous propose peut-être une petite pause et sur la deuxième partie, on continuera un peu sur un autre aspect qui est ton engagement d'auteur. Et on laissera aussi, enfin pour vous, la place aux questions. Donc préparez pendant la pause vos questions. On prend une pause de 10 minutes.
10 minutes ?
Un quart d'heure. En fait, on annonce 10 minutes pour être sûr de reprendre dans un...